suis artiste. Moi, je carbure au, à l'approbation.
La reconnaissance puis, des autres.
Absolument. J'ai choisi un métier où mon succès dépend presque entièrement des autres. Avec du recul, je me rends compte que ça a été le début de la montagne russe qui m'a menée à une période très, 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 très sombre de ma vie où j'ai touché de nombreux bas-fonds. J'ai failli... Je suis pas dramatique en disant ça, mais j'ai failli laisser ma peau à plusieurs reprises.
À mon balado, c'est assez rare que je m'ouvre sur ma vie privée. Mais aujourd'hui, je me suis permis de le faire avec Eva Avila, qui avait gagné Canadian Idol à l'époque, qui a été propulsée dans la célébrité, mais aussi dans tous les déboires qui peuvent venir avec. Elle a sombré dans l'alcool, elle est devenue alcoolique. Elle est maintenant sobre depuis 8 ans. Et elle est venue nous parler de son parcours. On a partagé chacune comment on a vécu sensiblement les mêmes années dans une industrie assez toxique. OK, mais Canadian Idol, 2019? Non, fait que ça veut dire, tantôt, tu avais 19 ans, c'était en 2006. Mais c'est la même année que j'ai fait... Moi, c'était en 2007. C'est la même année, 2006, que j'ai fait Star Academy.
Même année? Ah
ouais? Ouais, dans le fond, j'étais... Attends, non, c'est pas vrai, c'est en 2005, c'est ça. J'étais au cégep en musique.
OK.
Puis, c'est ça, c'était 2005, mais il y aurait été en onde en 2006. Fait que c'était comme...
OK, c'était pre-tape.
Ouais, dans le fond, tu sais, ben c'est parce qu'ils suivent pour faire de l'argent, là. C'était rendu qu'ils faisaient beaucoup, beaucoup de... Toutes les auditions étaient filmées. Puis là, t'avais comme tout le processus des auditions. Puis là, déjà, le monde s'investissait dans savoir lequel qui allait rentrer à l'académie. Puis il y avait des blogs. Puis le monde, tu sais, c'était... Il y avait un hype autour de ça. Puis là, après, ben moi, c'est ça. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue dans la dernière audition à Montréal. Devant... Les trois juges qui étaient filmés qu'on connaissait, Stéphane Laporte, puis les deux autres, mais t'avais dans l'ombre, là, je me rappelle, là, c'est comme plein de monde que tu voyais pas. Puis après, ils te faisaient signer une pile de contrats, ça, de grosses.
Ouais.
T'as sûrement vécu ça avec Canadian Idol aussi.
Oui, oui.
Mais moi, les contrats, ils m'avaient vraiment intimidée. Premièrement, on n'avait pas beaucoup de temps pour les lire. C'était deux semaines.
OK.
Puis c'est le temps de les faire réviser par un avocat. Puis anyway, même si t'es lit, tu peux pas négocier une clause, là. C'est comme tu signes ou on prend l'autre, là, au suivant, là. Fait là, c'est ça, c'était genre 50% de ton salaire, puis c'était 7 ans de t'es lié avec eux. C'était 5 ans, mais jusqu'à 7 ans. Puis moi, j'ai fait, je pense que les gens prennent pas la pleine mesure que ça peut lancer ta carrière, mais ça peut la détruire aussi, tu sais. Il y avait des gens là-dedans qui vivaient en faisant des bars au noir. Puis là, du jour au lendemain, il faut que tu donnes 50% de ton salaire à Star Academy, là. Ben, c'est comme...
En échange de la gloire.
En échange de bien des choses, ouais. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a la gloire, parce que là, les 20 qui rentraient le premier soir, t'avais 14 qui rentrent à l'Académie, puis il y en a 6 qui étaient éliminés le premier soir. Mais ces 6-là sont liés, c'est le même contrat qu'ils ont signé.
OK!
Fait qu'ils sont quasiment pas connus, personne se rappelle d'eux, mais ils ont 5 ans avec Sony, puis avec les productions J. Fait que là, c'était un pensée bien, là. Moi, c'est pour ça que je me suis dit, attends, là, on va prendre le temps de réfléchir.
Puis toi, t'avais 19 aussi, right?
J'avais 19, exact.
C'était quoi ton processus? Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as dit, non, moi, c'est pas pour moi, j'embarque pas là-dedans?
J'ai déjà commencé le processus en n'ayant pas l'intention de faire Starac. J'étais déjà, c'était la troisième édition, je jugeais un petit peu les célébrités instantanées, ce que j'ai pas de juger.
Non, mais j'avais le même minding que toi, je voulais pas auditionner au début.
Attends,
non?
Mais on va y revenir. Mais en gros, quand je me suis fait prendre à mon propre jeu, puis je me suis retrouvée en finale, puis là, en plus, j'étais le coup de cœur de Stéphane Laporte, puis il avait dit en entrevue là, que ça avait été son gros coup de cœur à Trois-Rivières. Je me disais, ben, c'est quand même le producteur du show. Les probabilités que je rentre à l'Académie sont assez grosses. Puis là, j'ai fait... Ma vie étant ce qu'elle est, j'ai toujours senti qu'il y avait beaucoup d'ironie dans ma vie. Ça fait, je pense qu'il va falloir que je me positionne fortement sur qu'est-ce que je veux, moi. Je vais pas laisser le sort décider. Là, t'sais, je suis sortie de ma deuxième audition filmée, puis je me rappelle en fait comme... Fuck, c'est ça, je suis prise.
Tu le sentais.
Ah, je le savais. Puis là, j'ai été prise pour la troisième audition. Puis là, ça s'est mis à buzzer parce que j'étais la seule de la région. En fait, il y avait déjà du monde qui me parlait d'organiser des soupers spaghetti pour les dimanches soirs pour faire des appels. Puis tu sais, voter pour toi parce que c'était ça, là, c'était une pièce l'appel.
Ah oui, les gens ont voté pour nous.
Ouais, fait que, puis ils faisaient de l'argent avec ça. Fait que je me suis dit, ben non, j'étais au cégep en musique. Déjà, tu sais, il y avait comme beaucoup de valorisation à être un artiste, là, tu sais, de faire le processus.
C'est ton propre chemin. Tu mangeais tes croûtes.
Puis il y avait pas... Pour moi, la reconnaissance des pairs est importante. Fait que j'ai quand même été voir un thérapeute, une psychologue, pour prendre ma décision, peser les pour puis les contre. Je me suis dit, j'arrive pas à être objective, je vais aller voir une psy. J'ai
appelé ma psy. Cette maturité-là à 19 ans.
Ouais, j'imagine que Fabien y repensé. Je me dis, ouais, bravo, hello. Là. Mm-hmm. Je suis contente d'avoir eu l'encadrement de mes parents aussi. Là. Puis j'ai refusé. Mais là, ça a été difficile pour les gens de ma région d'accepter. Ouais, quoi, t'as pensé? T'es-tu folle?
Tu vis pas ta vie pour eux, tu vis ta vie pour
non,
toi.
Non, puis j'ai jamais regretté.
C'est facile à dire.
Mais... jamais regretté cette décision-là. Ben, t'es pris vraiment solide dans mes bottines, fait je pouvais pas le regretter. Mm-hmm. Mais toi aussi, d'abord, ça a été quoi ton processus déjà d'aller faire les auditions Canadian Idol?
Moi, au départ, je voulais... En tout cas, il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas et que même moi, on dirait que j'avais comme enfoui dans un tiroir, mais j'ai auditionné pour la toute première saison.
Ah oui?
En 2000...
Mais t'étais toute jeune.
J'avais 16 ans. La première fois qu'ils sont venus, qu'ils ont lancé l'émission au Canada puis qu'ils sont venus faire les auditions, j'avais 16 ans. Et à ce moment-là, oui, je voulais y aller volontiers passer les auditions.
Fait tu voulais déjà être une chanteuse à ce moment-là
oui,
dans ta
vie. Oui, moi je chante depuis que je chante comme trois pommes. Mes premiers concours, ça remonte à quand j'avais 6 ans, 7 ans. Je faisais des prestations avec mon papa. Mm-hmm. Ma mère, elle m'a reconduit à toutes sortes de cours de théâtre musical, des cours de piano, des cours de chant, des compétitions, etc. Fait que j'étais pas étrangère au processus d'auditionner,
okay.
Le track, les papillons dans le ventre, l'élément de compétition, de regarder, enfin, OK, elle est, je pense qu'elle est meilleure que moi. Puis, tu sais, déjà là, à un très jeune âge, tu sens cette pression-là. Fait que à la première saison de Canadian Idol, j'étais prête, je voulais auditionner, je le voulais fort, là. Mm-hmm. Puis, je pense que le track a pris le dessus sur moi parce que je suis entrée dans la salle d'audition devant les juges. Je pense que je trouvais pas mon pitch. J'avais pas trouvé ma tonalité, parce que c'est a cappella, là, t'as pas d'accompagnement.
Ah, c'était a cappella,
Oui, t'as pas de pianiste, t'as pas d'accompagnement.
Même pas personne pour te donner ta tonalité.
Non, tu rentres là, puis c'est go, chante-moi une toune. Puis, évidemment, j'étais partie sur un refrain, puis après ça, j'ai...
C'était trop aigu.
C'était pas que c'était trop aigu, c'est que j'étais pas restée dans la tonalité, et eux l'ont entendu. Puis moi aussi, je l'ai entendu, là. C'est juste, pour vrai, c'était juste les nerfs.
Ouais.
C'était juste le track.
Puis ça, c'est considéré comme une tare? Que t'es changé de tonalité après, ça les a...
Ben, c'est que je pense qu'ils ont ressenti mon stress.
Ouais,
j'avais probablement la voix qui avait le trémolo, puis j'avais pas tous mes moyens.
Ouais, je comprends.
Et ils l'ont senti. Puis un des juges m'a dit, t'as définitivement du talent, t'as une bonne voix, reviens l'année prochaine. Tu manques peut-être juste un peu d'expérience puis de maturité.
Mm.
Qui était très, très exact et très juste. Moi, ça m'a brisé le cœur. Mon petit égo dans chanteuse de 16 ans, j'ai dit non, ils m'ont pas pris. Puis bon, j'en suis revenue. J'ai continué à chanter dans les spectacles d'école. J'ai continué à m'impliquer au niveau régional. J'avais une agente à cette époque-là qui s'occupait de moi en Outaouais. Je faisais des premières parties d'artistes québécois. À Saint-Jean, j'ai ouvert pour Claude Dubois.
Ah ouais, OK.
J'avais fait un concours qui s'appelle Jeune Diva du Québec, que j'avais gagné. Fait que j'étais déjà... Tu sais, je traçais mon chemin tranquillement parce que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Ça, c'était sûr et certain. Mais mon petit égo était... gratigné beaucoup. Et quand ils sont revenus... d'année après année, je disais non, ça m'intéresse plus. Je vais faire mon propre chemin.
Ah, OK.
Je voulais plus rien savoir.
Il y avait une petite pointe de frustration, genre ils n'ont pas voulu de moi, fait je vais trouver une autre façon, ou c'était juste...
Probablement.
Ouais, tu pensais
ouais,
un peu de ça.
Ouais, c'était vraiment mon ego qui était blessé, puis qui était comme... Là, avec du recul, je me rends compte que j'avais peur de me remettre dans cette position-là. Peur du rejet, blabla. Donc, je voulais pas. Puis finalement, saison 4... j'étais à un souper de famille, puis là, mon Dieu, on aurait juré une intervention, là, ma mère puis ma tante, ils ont dit, là, Eva, on aimerait ça te parler. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, on aimerait ça que tu retentes ta chance avec Canadian Idol. On trouve que même si tu gagnes pas la compétition, tu peux te faire découvrir, t'as pris de la maturité, t'as pris de l'expérience.
Ils t'ont vendu le projet.
Ils m'ont vendu le projet, puis moi, j'ai dit, non, laissez-moi tranquille. Je voulais rien savoir. Merci, c'est super gentil, vous croyez autant en moi, mais I'm good. Et à ce moment-là, j'avais essayé d'aller au cégep 2-3 fois. J'étais allée en arts et lettres cinéma. Je pense que j'étais allée en sciences humaines. Il n'y avait rien d'artistique à Gatineau à cette époque-là. Il n'y avait pas de programme musical. Il n'y avait rien qui était artistique d'aucune façon. Fait que je travaillais à temps plein au bureau de poste. Et mon plan, c'était de me ramasser des sous, déménager à Montréal avec une amie à l'époque, puis d'aller à l'ESTEM, l'École supérieure de théâtre musical.
Ah oui, OK.
C'est ça mon plan. Finalement, le matin des auditions, j'ai eu une espèce d'une intuition, appelle ça comme tu veux. J'ai ressenti un gut feeling comme quoi, you know what, j'ai rien à perdre, je vais y aller. Fait que c'est même pas moi qui ai fait la file, c'est ma famille, c'est ma tante puis ma mère qui ont fait la file pour moi.
Ils sont bien cute.
Ouais, fait que j'ai attendu peut-être une heure, gros max, au centre commercial à Ottawa, puis j'ai passé les premières étapes. Et quand j'ai refait l'étape devant les juges, ben ils m'ont pris. Puis là, après
est-ce que c'était filmé, cette audition-là?
Les premières, non, parce que c'est juste devant les producteurs.
Ouais.
Mais devant les juges, Sass Jordan, Jake Gold, Farley Flex et Zach Warner, oui, c'était devant les caméras.
Okay.
Ils donnent ton petit golden ticket, puis là, tu vas à Toronto, puis c'est le top 200. 4 jours plus tard, il en reste 22, puis là débute le tournage.
Fait que vous êtes 22 quand vous commencez l'émission?
Oui.
OK. Puis ça dure combien de temps?
Ça a duré 2 mois, fin mai à mi-septembre.
Puis tu t'es rendu, t'as gagné.
Oui, je me suis rendue à la fin.
Y avait-tu d'autres Québécoises? Non, hein?
Au début, oui, il y avait, dans le top 22, il y avait une chanteuse qui s'appelle Valérie Jalbert, puis Annabelle Oliva de Mixmania.
Ah, OK, je connais. Ah, ouais, OK. Mm-hmm. Enfin, c'est des filles qui essayaient de percer dans ce moment-là.
C'était un tourbillon, là. Ça a passé super vite. Moi, je m'attendais zéro à...
Non?
Je m'attendais vraiment pas à me rendre... mettons, top 10, j'étais comme, OK, c'est un... Wow, c'est
un accomplissement, oui.
Ouais, puis pour vrai, c'est vraiment... C'est un tourbillon, parce que... première chose que je réalisais, c'est que j'avais gagné, j'étais rendue à première place, puis c'est vraiment... C'est des souvenirs quasiment embrouillés, parce que c'était tellement des grosses émotions intenses, puis des shots de dopamine, comme j'avais jamais ressenti. C'était un peu comme un rêve.
êtes-vous épaulée quand vous... Est-ce qu'il y a des psychologues? Non. Hein?
Pas de psychologue, non. Il y avait une dame, une des productrices, qui était un peu comme notre maman, grande sœur, celle qui faisait nos horaires, qui s'occupait de nous. Elle était un soutien vraiment, vraiment immense. Mais non, il n'y avait pas de psychologue ou rien de ça. Nous aussi, on nous a montré les documents, on nous a montré les contrats. On avait une journée avec l'avocat qui nous faisait voir, qui nous distribuait le contrat qu'on signerait avec Sony. Ça, c'était à top 10. Fait qu'on était les 10. OK, celui qui va gagner, celui ou celle qui va gagner.
Ah, fait que c'était pas tout le monde qui était lié au moins.
Non.
C'est toujours mieux que Star Academy pour ça.
Parce que moi, j'ai signé le contrat avec Sony le soir de ma victoire.
OK, T'avais pas vendu ton âme avant.
Non, mais pendant la période de l'émission, on était avec Inside Productions, la compagnie, le studio, en fait. Puis dès que j'ai gagné, là, j'étais plus avec Inside, j'étais rendue artiste de Sony.
OK, c'est Sony récupère finalement les 10 gagnants, puis c'est eux qui prennent le relais après.
Oui.
Puis, du moment que t'as gagné, on parle souvent de la célébrité overnight, là, cette espèce de... comment ça peut être traumatisant comme expérience. Puis tu sais, moi, c'est sûr, j'ai souvent parlé des vedettes de Hollywood, comment ils sont mal virés. Là. C'est quelque chose que je parle souvent. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de ce que je pense qui se passe à Hollywood, mais tu sais, souvent, je dis, il me semble que c'est pas justifié que, mettons, Demi Lovato, qui est rendue, genre, a fait des détox à tous les mois, quasiment, elle est bipolaire, elle est TPL, tu sais, ils ont tellement de troubles de santé mentale, que tu dis, c'est-tu vraiment juste la célébrité du jour au lendemain qui les a scrappés ou il y a d'autres choses? Ça, c'est la grande question. Mais j'ai envie, avec toi, parle-nous de ton expérience de devenir célèbre du jour au lendemain comme ça. Qu'est-ce que ça représente pour un humain devoir gérer ça?
Pour moi, c'est sûr que j'étais pas prête à encaisser.
Mais est-ce qu'on peut être prête?
I guess not. Par contre, si j'avais eu 25... 30 ans.
Ouais.
Puis on le saura jamais, puis c'est bien correct. Là. J'ai été longtemps à me poser des questions. Si j'avais pas fait Canadian Idol, de quoi ma vie aurait-elle l'air aujourd'hui? Ça sert à rien de se poser ces questions-là. Mais j'étais certainement pas prête. Je quittais le nid de chez ma mère. J'avais 19 ans, j'étais majeure, mais genre, j'étais encore une ado. Là.
Ben oui.
J'avais pas d'expérience de vie. J'avais eu un cœur brisé. Puis mes parents se sont divorcés quand j'avais 3 ans. J'ai vécu des mini bébés de trauma avec un petit T. J'ai pas vécu de grand trauma. Puis je dis pas que l'après Canadian Idol était un trauma non plus. Les traumas sont venus après. Mais j'étais tellement pas prête Je ne savais pas quoi faire avec cette overdose de dopamine-là. Je suis devenue accro.
Puis instantanément, dirais-tu?
Je pense que oui. C'est pour ça que tout l'été, Canadian Idol, je dormais quelques heures par nuit, mais ça me suffisait. J'étais high, constamment
high. Ah ouais, hein?
Oui.
Fait que c'est pas une figure de style. C'est comme vraiment une espèce un sentiment d'être sur un buzz de quelque chose.
T'es vraiment sur un buzz. Vraiment sur un buzz. Puis je sais pas exactement si les autres candidats l'ont vécu comme ça, mais tu sais, veux pas, là, c'est pas la vraie vie, là. C'est comme un camp de jour, là.
C'est ça.
Excuse, pas un camp de jour, un camp d'été. Parce que t'es dans une bulle, t'as même pas de contact avec les médias, avec la... je veux dire, c'était avant l'époque des réseaux sociaux, fait que le soir, après les tournages, on s'installait à l'ordinateur de la maison, la Idol Mansion, puis on allait sur le site de CTV, puis on allait voir les forums, puis on allait lire les commentaires. Ça, c'était l'équivalent de Facebook aujourd'hui.
Ouais.
Fait que, veux, veux pas, on se mettait dans une situation où on était super vulnérable, puis c'est comme on cherchait la critique, on voulait savoir ce que les gens pensaient de nous, puis c'est qui va se faire éliminer. Puis... Fait que, quand j'ai gagné d'avoir été catapultée du jour au lendemain, non seulement avec la célébrité, mais avec... Je veux pas ma job de rêve sur un plateau d'argent, soit faire des albums, soit faire des tournées. Tout le monde te veut.
Un hit radiophonique instantané aussi.
Oui, absolument. Bon, le lendemain de ma victoire, mon single était déjà prêt parce que je l'avais déjà enregistré deux semaines avant. Là.
C'était I Owe It All to You.
Right? Non, le premier c'était Meant to Fly.
Ah oui, OK.
C'est la chanson qui a été composée pour moi spécifiquement, qui avait été aussi enregistrée pour moi. Pour le ou la gagnante, qui avait été aussi enregistrée par les autres candidats, qui étaient les trois autres gars.
OK.
Fait que les quatre versions étaient prêtes.
OK.
Il y en avait une qui était plus country, une qui était plus rock, la mienne était plus R&B. Puis dès que le gagnant est annoncé, la toune, ou peu importe laquelle des quatre versions, était prête. Tchou!
Wow!
Fait que, c'est une grosse machine, là. C'est vraiment une grosse machine. Puis j'étais... écoute, pendant quelques années après, là, je veux dire, j'ai quand même surfé la vague. Les contrats pleuvaient. J'étais en demande. Moi, je suis consciente que je suis quelqu'un qui a des... Tu sais, quand on parle des cinq blessures fondamentales des êtres humains, là, le rejet, l'abandon, la trahison, moi, c'est sûr que j'ai le rejet. Puis probablement l'abandon aussi. Parce que moi...
Que t'as plus fort, tu portes plus fort. C'est plus des vulnérabilités pour toi.
Oui, celles qui sont plus dominantes. Parce que, je veux pas, je suis artiste. Moi, je carbure à l'approbation.
La reconnaissance des autres.
Absolument. J'ai choisi un métier où mon succès dépend presque entièrement des autres.
Oui. C'est vrai que c'est ça qui crève-cœur un peu d'être un artiste.
Oui. Oui. Fait que... C'est du jour au lendemain comme ça. C'était pas... Avec du recul, je me rends compte que ça a été le début de la montagne russe qui m'a menée à une période très, 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 très sombre de ma vie, où j'ai touché de nombreux bas-fonds. J'ai failli... Je suis pas dramatique en disant ça, mais j'ai failli laisser ma peau à plusieurs reprises.
Je pars un mois en Thaïlande avec ma famille. Donc, pendant plusieurs semaines, je serai jamais sur mon réseau Wi-Fi privé à la maison. Je vais être exclusivement dans des hôtels, dans des aéroports, finalement, sur des Wi-Fi publics. Et ça me frappe à quel point aujourd'hui, on fait tout en ligne. Que ce soit travailler, se divertir, faire nos transactions bancaires, entrer des mots de passe, magasiner, faire des achats. Ici ou ailleurs, notre connexion à Internet, c'est vraiment notre porte d'entrée sur notre vie numérique. Le problème, c'est que sur des réseaux publics, on n'a aucun contrôle sur l'infrastructure. On ne sait pas vraiment qui gère le réseau ni comment les données sont acheminées. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas vraiment quand on mène notre petite vie d'internaute. Mais même à la maison, notre fournisseur d'accès à Internet voit une partie de ce qu'on fait en ligne. C'est là qu'un VPN devient essentiel. Concrètement, un VPN, ça fait quoi? Un, il chiffre toute ma connexion à Internet. Donc, mes données deviennent illisibles pour les réseaux que j'utilise, que ce soit un Wi-Fi à l'étranger ou même pour mon fournisseur d'accès Internet ici à la maison. Deux, ils masquent mon adresse IP, soit mon identité numérique. Ça veut dire que les sites et services ne savent plus exactement qui je suis ni d'où je me connecte réellement. Et trois, le VPN permet de choisir le pays d'où on semble se connecter. En voyage, c'est super pratique. Je peux continuer à accéder à mes contenus et mes services comme si j'étais au Canada, même si c'est des contenus qui seraient normalement bloqués à l'étranger. Par exemple, un exemple purement hypothétique. Supposons que je suis en Thaïlande, un dimanche soir, il me prend une envie irrépressible de regarder Tout le monde en parle à Radio-Can. Si je me connecte avec un VPN du Canada, je pourrais le faire malgré le blocage géographique qui existe sur le site de Radio-Can. Moi, j'utilise NordVPN parce que tout est intégré dans une seule application. Simple, ultra rapide. C'est le VPN le plus rapide, en fait. Et vous pouvez protéger jusqu'à 10 appareils sur un seul abonnement. Protégez votre vie privée en ligne, vous aussi. Profitez du meilleur deal du moment. C'est au nordvpn.com/EVSavoir. Vous obtenez 4 mois gratuits en prenant l'abonnement de 2 ans. Et ce que j'adore personnellement, vous avez une garantie de satisfaction de 30 jours ou argent remis. Le lien est dans la description de la vidéo. Tu penses que tu as failli mourir?
Je sais que j'ai failli mourir.
À cause de l'alcool?
Oui. Je me suis rendue à l'hôpital 4 fois, dont 2 fois, j'étais pas réveillable.
T'étais dans un coma éthylique
ouais.
avancé. Oui.
Qu'est-ce
qui amène une personne, tu dis que t'as pas eu des gros traumas avant, t'as eu une enfance, bon tes parents se sont séparés, t'avais 3 ans, mais sinon t'as eu une enfance plutôt normale,
mm-hmm.
dans un milieu de vie sain.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui amène une fille avec une bonne fondation à tomber dans cette spirale-là?
Bonne question. C'est mon travail, j'ai 38 ans, puis je pense que je vais continuer à cheminer pour avoir, peut-être pas avoir toutes les réponses, mais essayer de comprendre. Puis il y a des choses que je comprendrai jamais, puis c'est correct, je suis mm-hmm. en paix avec ça. Moi, je suis une personne qui pense, je suis pas toute seule, mais je pense que vraiment tout arrive pour une raison, même les gros échecs, les grosses pertes, quand on se demande mais pourquoi c'est arrivé de même, pourquoi on a perdu, ça mène tout le temps à une compréhension de soi-même, puis je pense que c'est ça qui mène à être une, pas être une meilleure personne, c'est pas ça je veux dire, parce que c'est cliché de dire ça, mais être la personne que je suis supposée être.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, on entend souvent le cliché d'être la meilleure version de soi-même.
Oui.
Je pense que être juste soi-même, point, ouais. c'est plus important. Ouais.
Au lieu d'être un personnage.
Oui, parce que souvent, c'est motivé par des facteurs qui sont extérieurs. Puis c'est traître parce que dans mon milieu, c'est quasiment juste ça.
Mm-hmm.
La validation de l'extérieur. Fait que c'est... Oui, j'ai eu une enfance extraordinaire. J'ai été élevée noyée dans l'amour, dans l'écoute, le soutien. Peut-être que ça part un petit peu de là, c'est-à-dire j'ai été tellement chouchoutée mm-hmm. depuis ma tendre enfance. Depuis que j'ai commencé à pousser quelques notes, j'étais la meilleure.
T'es-tu enfant unique?
J'ai été élevée enfant unique à mon jeune âge, mais mon père, il a eu un fils, donc j'ai un demi-frère.
Okay.
On a 11 ans de différence.
Okay.
Fait que non, je suis pas enfant unique, mais mes premières années, j'ai été élevée plutôt avec ma maman. Mes parents se sont divorcés, ils ont été en très bons termes. Je manquais de rien. Mm-hmm. Je manquais pas de présence de mon papa du tout. J'étais super bien encadrée. J'ai été très mise sur un piédestal. Là, j'étais tout le temps. Puis, je veux pas, les premiers concours que je faisais dans ma région, je gagnais quasiment tout le temps. Fait que
c'était un
pour
peu
moi,
facile.
C'était acquis, c'était ouais, facile.
Je comprends.
Puis, ben, ça a fait en sorte que je me suis plantée beaucoup en tant que jeune adulte parce que l'après Canadian Idol, c'était comme, OK, mais ce sera pas de même tout le temps, ma petite fille.
Ouais.
Ça sera pas ouais, tout le temps toi la meilleure. Il va toujours avoir quelqu'un de plus.
Surtout que tu étais rendu dans le cours des grands.
Oui. Puis pendant un court moment, j'étais dans le cours des grands. Puis après ça, quand Sony m'a droppé, j'étais moins en demande tout à coup. Là. Mm-hmm. C'était moins
c'était plus la attrayant saveur du moment
de travailler avec moi.
Mais c'est intéressant parce que tu dis, parce que c'est sûr que ça fait longtemps que je fais plus vraiment de musique, mais je me souviens cette facilité-là aussi à faire des concours, puis rentrer dedans, puis gagner. T'sais. C'est sûr que ça amène une espèce de... Je pense pas que j'étais arrogante, mais j'étais très sûre de moi. Je mm-hmm. savais que ça allait marcher. Il n'y avait pas de doute là-dessus.
T'avais puis confiance quand... en toi, c'est beau.
C'est ça. Puis ça prend ça dans ce milieu-là. Tu peux pas arriver là en n'étant pas sûre. C'est un milieu qui va te faire manger là, si tu mm-hmm. si t'arrives pas solide en ayant confiance en tes forces. Puis t'as raison de savoir que tu chantes bien, c'est un fait. Là. On peut débattre. Après, c'est comment on évolue là-dedans quand on commence à rencontrer des refus, des rejets,
mm-hmm.
des abandons. T'sais, tu dis que t'as été droppée par Sony. Puis là, c'est là que t'es testée. Puis je pense que c'est difficile dans la jeune vingtaine. Moi aussi, j'avais dans la jeune vingtaine, quand j'ai commencé à rencontrer des producteurs qui finalement veulent juste coucher avec toi, puis finalement ils te laissent miroiter mer et monde, mais c'est de la bullshit tout promesses. Le temps. Ouais, c'est ça. Puis là, tu essaies d'évoluer là-dedans en restant solide, mais un, deux, trois producteurs, trois rejets, quatre rejets des auditions, tu te fais dire non. Là, ça commence à être comme wow, attends, c'est pas ce que j'ai vécu quand j'étais jeune ado. Là. C'est, la game, elle vient de changer. Puis, c'est-tu cette game-là que j'ai envie de jouer finalement? Ça va-tu être ça toute ma vie? Je me rappelle m'être posé la question là, à 23 ou 24 ans, ça va être ça? Là? C'est dans ça que je m'embarque?
C'est drainant. Hein?
Je peux pas. Je me rappelle vraiment, j'étais où? Je pleurais. Je pense que j'étais rendue en dépression. Je venais de me faire encore dropper par un producteur avec qui j'avais pas voulu coucher. Puis je me disais, ça peut pas être ça. Là. C'est hors de question que je m'inscrive. Là. Je signe nulle part pour ça. Ça va pas être ça, ma vie. J'ai pas envie d'être malheureuse toute ma vie. Ma vie, mon bonheur ne peut pas dépendre des autres.
Mm-hmm.
Ça pouvait pas être. Là, ça dépendait trop de facteurs extérieurs. Si j'ai une carrière, c'est si le producteur décide de quand même me laisser enregistrer, même si j'ai pas couché avec. Puis si j'ai réussi à avoir un hit, c'est parce qu'il y a une radio que... Tu sais, ça, tu dépends juste des autres. T'es jamais en contrôle de ta vie. Je trouve ça extrêmement souffrant. Mm-hmm. J'avais comme un peu oublié, parce que ça fait quand même 15 ans, mais t'écouter parler, je me souviens de... C'est claque d'en face à répétition, là. Début vingtaine, d'être barouettée par les vagues puis de plus me sentir du tout en contrôle. Fait que...
Puis est-ce que tu te souviens d'un moment précis ou d'un événement précis où tu as dit « OK, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. J'ai fini. Je fais un... »
Je ferme les livres.
Un revirement de carrière.
Carrément.
Ouais.
Ça a été le producteur, un producteur que je nomme jamais. Je pensais qu'il allait tomber dans MeToo au Québec. J'étais vraiment déçue qu'il tombe pas, parce que je sais que je suis pas la seule qu'il est très connu. Tout le monde le connaît. Mais
c'est qui?
Je te le dirai off-cam. Mais non, mais je c'est pourrais pas. Drôle. Pas lui, c'était. En plus, il savait parce que j'arrivais d'aller. J'avais un gros potentiel à exploiter là-bas. Puis on est en train de monter un show ici pour faire un showcase devant des producteurs qui allaient venir des États-Unis.
OK.
Puis,
en anglais?
Ça, oui, c'est en anglais. Puis lui, il me disait, tu fais bien de viser l'anglais, tout ce qu'il faut pour percer le marché anglophone, okay. Go. Puis moi, je te supporte là-dedans. Puis il m'aidait à monter le show. Il avait mis à ma disposition, ben il disait, les meilleurs musiciens du Québec. Mm-hmm, puis puis tu sais, moi, je venais de me faire, là, j'avais 24 ou 25 ans, fait que je n'avais vu d'autres. Puis j'y avais dit, là, je m'en fous, show don't tell. Je m'en fous de tes promesses, je m'en fous de tout ce que tu me dis, je veux juste... livre la marchandise, puis on parlera après. Mmh. Il savait dans quelle position j'étais, il savait à quel point je m'étais faite vraiment comme niaisée par tout le monde. Puis il a quand même abusé. Puis là, tu sais, il me textait à 3h du matin des sextos. Puis là, il essaie... Mais j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Mais tu sais, c'était tellement pour moi sur une autre planète, je me disais, il doit pas être sérieux. Fait je répondais pas. Tu sais, quand t'es dans le déni, je ne pouvais pas concevoir que c'était ça qu'il essayait de donner. Comme, je me disais, il doit niaiser. Puis dans ma tête, il était asexué, ce gars-là, fait que je me disais, ça se peut pas, tu sais, c'est comme, il est assez connu du public comme quelqu'un que tu pourrais pas penser ça de cette personne-là, fait que, mais finalement, comme j'y répondais pas à ses avances, il a fini par être frustré, puis là, il a arrêté de m'écrire, puis là, puis là, j'étais comme, attends, là, wow, là, je me suis mis à courir après, là, tu sais, l'anxiété que tu vis, là, comme, fuck,
comment c'est... commencé un projet
ensemble. Mais j'allais chez lui, là, on pratiquait nos pièces, ça, c'était, on était très avancés, la date était confirmée, les invitations étaient envoyées à mes producteurs aux États-Unis, puis il m'a flushé du jour au lendemain, il m'a plus jamais reparlé. Il m'a recroisé 2 ans plus tard... C'était vraiment malaisant. Il a comme, sur le coup, voulu faire comme s'il savait pas j'étais qui, puis après, il m'a fait face, il a dit « Oui, je sais t'es qui, c'est correct. » Puis il a comme...
À Montréal ou à LA?
Je couvrais un tapis rouge où il était là.
OK.
Ici à Montréal. Puis c'est
comme... Oh my God!
Puis je veux plus rien avoir avec ce milieu-là, c'est ça, en fait, c'est que ça m'a tellement... À ce moment-là, ça a vraiment fait la musique, c'est terminé. Ça, c'était à 24 ou 25 ans, là. Puis j'ai plus jamais... Ça a été une histoire vraiment comme une peine d'amour. Puis quand MeToo... Là, je fais un gros parallèle, mais quand MeToo est arrivé, puis que j'ai eu espoir que cette histoire-là sorte, j'ai essayé de reprendre un peu la parole, puis faire une... Ça a été une partie importante pour moi, MeToo, parce que j'ai essayé de faire la paix avec les parties qui avaient été très blessées dans ma jeune vingtaine. Puis j'ai appelé la journaliste qui avait fait sortir l'affaire sur Roson. On s'est parlé au téléphone. Elle m'a dit « Le nom que tu me dis, je sais que t'es pas la première qui me le nomme. Il faut que j'aille revérifier parce qu'elles ont eu tellement de témoignages. Quand c'est sorti, ça faisait peut-être plusieurs mois, peut-être 8 mois. » Mais elle dit, on peut pas sortir, tu sais, elle dit, on n'a pas... Si on sort, ça va être de la diffamation si c'est juste toi. Elle dit, faut qu'il... Tu sais, elle dit, Roson, on avait... Je pense qu'il était 12 ou 15, je sais pas, là. Puis finalement, elle m'est revenue, elle m'a dit, ouais, on n'ira pas de l'avant avec ça. Mais
parce juste qu'il n'y avait pas assez de personnes.
Non, c'est ça. Puis je pense qu'il y avait peut-être plus de momentum non plus. Tu sais, ça faisait plusieurs mois, je sais pas. J'ai pas trop su la raison pour laquelle on n'a pas été de l'avant avec ça. Mais ça m'a permis, moi, de cheminer là-dedans. Tu sais, j'ai fait un deuil, j'ai fait la paix avec des parties de moi qui étaient très blessées de ça. Fait que, tu sais, en gros, c'est ça, je comprends. Je vais en revenir à toi. On n'a pas du tout le même parcours. Tu sais, j'ai pas gagné un show, mais je comprends c'est pas quoi grave. Toucher à la célébrité ou, tu sais, avoir ça facile. Puis soudainement, ça devient juste de la résistance. Puis là, il n'y a plus de fun, là.
Mm-hmm.
Puis toi, quand t'as vu ça, comment t'as réagi? C'est comment tu t'es mis à cope en anglais, là, à gérer cette situation-là, quand ça s'est mis à plus être juste rose bonbon? Là?
Ben, après mon deuxième album, qui s'est pas autant bien vendu que le premier a été certifié or, c'était aussi à l'époque où les gens achetaient vraiment de moins en moins de CD. Là.
Ouais, c'est ouais, c'était l'effondrement.
Puis du iPod. Donc, mon premier album, il a été lancé, c'est sûr, sur le momentum de Canadian Idol. Il a été lancé 2 mois après que j'ai été déclarée gagnante. Fait que c'était vraiment rapide. J'ai eu même pas 2 mois pour tout enregistrer.
T'es rentrée en studio le lendemain, finalement?
Ouais, quasiment. Là. C'était une job à temps plein. Là. Go, 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 go. Puis en plus, on a enregistré beaucoup plus de chansons que le nombre de tunes qui se sont retrouvées sur l'album au final. Mais ça s'est passé très vite. Et le deuxième album, c'est pas autant bien vendu. Donc, Sony ont eu, à cause de cette raison, ils ont dit, ben, c'est plus vraiment rentable pour nous de continuer à travailler avec toi. Fait que, comme, pas de chance.
Pis, bonne chance.
C'est correct d'un point de vue business. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais moi, encore une fois, un rejet.
Mm-hmm.
Puis un, t'es pas assez bonne, t'es pas assez hot. Je sais que c'était pas réellement ça, mais.
Non, je comprends.
C'est la blessure qui a été grattée.
Ouais.
Parce que la blessure, je la porte en moi. On porte nos blessures en nous depuis la naissance ou depuis notre temps d'enfance. Puis à chaque fois qu'on revit une situation qui nous rappelle ces émotions-là, puis on ne s'est pas donné le droit ou qu'on ne s'est pas vraiment permis d'aller au bout de ça, puis de la purger, puis de faire un deuil, on va inconsciemment se remettre dans des situations où on va revivre ça.
C'est ça.
C'est flyé, j'allais dire. Ouais. Méchant mot, mais c'est flyé. fait que, comment j'ai cope, mes mécanismes de mes échappatoires, ben rapidement, ça a été l'alcool, au début de ma vingtaine, parce que, ben, l'alcool, c'est partout, puis c'est légal, puis c'est...
Mais t'avais pas autour de toi, ton père est pas alcoolique, t'avais-tu des influences?
Mon père est alcoolique.
OK.
Je pourrais en parler un petit peu plus tantôt, mais lui, il a arrêté de boire un an après moi, en fait. Il va célébrer ses 7 ans de sobriété en janvier.
OK.
Mais mon papa était un grand buveur toute sa vie aussi.
Penses-tu que ça a eu une raison pour laquelle ça a été une facilité pour toi d'aller vers l'alcool?
Probablement. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a des facteurs génétiques d'être prédisposé à développer une dépendance à l'alcool. Fait que oui, ça peut... Mais c'est un cocktail de facteurs.
Ben oui.
Cocktail, no pun intended. mais rapidement, je veux dire, j'habitais à Toronto, là. J'habitais à Toronto, puis je faisais des gigs, je faisais des tournées, je faisais des pratiques. Je courais les événements, je courais les open mic. Puis c'est sûr, l'alcool était partout.
Ouais.
Puis je suis tombée là-dedans rapidement, puis je me suis rapidement rendu compte que pour apaiser toute émotion négative, que ce soit le stress, l'ennui, sentiment d'abandon, de rejet, manque de confiance en moi, un petit verre ou 6, ça faisait la job. Fait que rapidement, je suis tombée là-dedans. Puis après ça, j'ai commencé à être en relation avec un chef cuisinier. Fait que là, les occasions de prendre un coup, c'était tous les jours de la semaine.
C'est nightlife tout le temps.
Puis, tu sais, un horaire de restauration, on en parlait tantôt, un horaire de restauration, ça n'a juste pas de bon sens. Et moi, qui n'avais pas vraiment d'horaire structuré, que des fois, j'avais des répètes, des fois, je partais 2-3 jours pour un show, je revenais, j'avais 2 semaines agenda complètement vide, où j'avais une audition aussi et là, je faisais des gigs, puis les gigs commençaient à être de plus en plus dispersés, de plus en plus distantes, le téléphone sonnait moins souvent. Moi aussi, je recevais beaucoup de promesses. Quand j'ai été droppée de Sony, mon gérant a dit « C'est correct, on va aller au Québec ». on va te faire un album en français. Puis moi, ça me parlait beaucoup. Je suis comme, un petit retour aux sources, retour au bercail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais moi, ma première langue, c'est le français. Fait qu'au Canada anglais, on pense que je suis anglophone.
Ouais.
Même à Montréal, il y a des gens qui pensent que je suis anglophone.
Parce que c'était vraiment zéro accent aussi.
Non, c'est ma première langue. Puis l'anglais, je l'ai appris à 2-3 ans. Fait que on peut dire que j'ai été élevée bilingue. Et puis, quand je suis arrivée à Montréal, ben on essayait d'organiser des rencontres, des meetings. On allait cogner à des portes. Des gens qui m'avaient dit, quand tu vas être prête à faire un album en français, là, appelle-nous, on va t'aider.
Ah oui.
Et là, personne répondait. Personne répondait. Tous les contacts, les productions de booking, oui, on va te faire une tournée. Mais là, que je n'étais plus avec Sony, c'était moins alléchant, travailler avec moi, je pense. C'est l'histoire que je me raconte et je pense que je ne suis pas dans le champ. Fait que là, ça, ben ça m'a quand même sombré encore plus dans un mode un peu dépressif de « Ah, pauvre moi, personne ne veut de moi, ma carrière est en train de faire... » Fait que j'ai commencé à consommer davantage d'alcool.
À ce moment-là, tu es début vingtaine.
Ouais, genre. Puis quand je suis partie de Toronto pour Montréal, ça c'était en 2010, j'avais 23. Puis je me retrouvais souvent seule à la maison, en attente. Dans l'espoir de... on attendait des retours. Je faisais un petit peu de songwriting ici et là. Puis, entre-temps, ben, fallait que je mange. Fait que j'ai commencé à travailler dans un band de cover avec un band qui s'appelle Les Vikings. Puis, à l'époque, c'était pas du tout mon bag parce que moi, je venais d'un background pop R&B. Puis, on me demandait, de faire du rock.
Ouais, c'est assez rock, Les Vikings.
OK, mais finalement, j'ai trippé. Puis, j'ai des super belles années avec ce groupe-là. Mais c'était pas ce qui m'appelait le plus, mais...
C'est avec Richard Petit.
Oui, ouais, Richard Petit puis Michel Bruno, qui étaient les fondateurs des Vikings. Mais entre-temps, mais j'étais depressed, là, pas mal tout le temps. Puis beaucoup de consommation. Puis je faisais des petits temps d'arrêt.
De l'alcool?
Oui.
OK. Ouais, t'as pas touché à rien d'autre?
Un petit joint de temps en temps, mais...
OK. Mais pas de drogue dure, là.
Non, c'est un miracle, parce que je sais que la coke et l'alcool, ça va vraiment, vraiment beaucoup ensemble. Puis certainement que si je l'avais essayé, je serais probablement tombée dedans.
Parce que dans le fond, ce que tu penses, c'est que tu as un tempérament à développer des dépendances.
Tout à fait. Ouais. Dans tout. OK. Dans tout dans ma vie, là. OK. Ah, ouais, moi, en fait, moi, je suis accro à la dopamine, point. Mm-hmm. Que ce soit c'est le sentiment que je recherche, c'est les hormones que je recherche. Mm. Que ce soit, tu sais, moi, j'aimerais bien ça être accro à sauter en parachute, là.
Ben, je te souhaite quand même pas, ça coûte cher.
Oui, non, ouais,
je comprends, mais quelque chose de moins dommageable.
Oui, parce que, si on s'entend, l'alcool, c'est extrêmement dommageable. Puis, on dit
sournois aussi, parce que c'est tellement banalisé.
C'est super sournois, c'est légal, c'est glamorisé.
C'est un service essentiel pendant la pandémie.
Ben, sais-tu pourquoi? Parce que ça, c'est ma théorie. Vas-y. Mais je crois que c'est parce que les gens... Premièrement, il y a énormément de gens qui sont dépendants à l'alcool. Mm-hmm. Et l'alcool, c'est la seule drogue au monde que si on l'arrête cul sec, on peut en mourir.
Pour vrai?
Mm-hmm. C'est pour ça que je te dis, là, j'ai failli laisser ma peau. Quand tu fais un sevrage d'alcool, tu peux convulser. Tu peux avoir un arrêt cardiaque.
Aussi, non?
Non.
Non?
Non.
Mais il ne faut pas qu'il donne de la méthadone ou... Je t'ai de l'air à connaître ça.
Je te jure que oui. Vraiment, l'alcool, c'est la seule substance au monde que si t'es au stade chronique, vers la fin, moi, j'étais rendue là, j'avais les shakes le matin, ça m'en prenait le matin.
Le matin?
Oui. Oui. Je me suis rendue au point où est-ce que je pouvais pas fonctionner sans... C'était mon médicament.
Tu te levais puis tu prenais quoi?
N'importe quoi.
Un shooter, mettons? Ou...
Le vodka, du vin de dépanneur. Je me suis même rendue, j'ai jamais dit ça publiquement, je me suis même rendue à boire du Listerine.
Non. Mm-hmm. Mais voyons. OK, ça fait très dépendant. Est-ce que tu as eu un wake-up call quand tu as fait ça?
J'ai eu plusieurs wake-up calls.
OK.
Ma première visite à l'hôpital, c'était un premier wake-up call. Pour des semaines, j'avais gardé mon bracelet d'hôpital pour me dire « That's it, j'arrête! » Non, j'ai pas arrêté. Quand je suis partie en Asie, je suis allée vivre à Hong Kong pendant 6 mois en 2015. J'ai fait... le début de mon contrat, ça s'est bien passé parce que j'étais abstinente. J'avais pas touché une goutte d'alcool, puis j'allais bien, là.
Tu faisais encore... Tu chantais, tu me disais tantôt, dans un groupe de jazz, c'est ça?
Oui, je faisais des gigs dans un hôtel avec un trio de jazz. Je faisais du top 40 puis du jazz. je chantais quand même 4 heures par soir. Fait qu'il fallait que
aïe,
je sois...
aïe, aïe. Ouais, fallait t'étais que la seule chanteuse?
Mm-hmm.
Je sais pas comment tu faisais.
Ouais, dans ce temps-là, j'avais des cordes vocales de fer. Là. J'ai...
C'est clair.
Dans le temps, là, je faisais des tournées de festival au Québec. Là. Je fumais, je me pétais
tu
la face.
Fumais? Oh, oui, la cigarette?
Oh oui.
Oh, wow! Oh, ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Puis t'étais capable de chanter.
Ah,
je comprends pas.
Moi, je sais pas comment je faisais.
Des cordes vocales, je pourrais jamais faire ça.
Ben, quand dans ma vingtaine, j'étais pas sensible. I guess, je me scrapais. Dans tous les sens du terme, puis la voix tenait, là. Je te faisais Iron Maiden, puis Great Gig in the Sky, puis
ouais.
Aucun problème. Mais, c'est ça, des fois, ça rattrape.
Ouais. Mais tu disais, t'es partie à Hong Kong.
Ouais, deuxième wake-up call, je me suis ramassée à l'hôpital à Hong Kong. J'ai fait une psychose.
OK, fait là, tu disais, t'étais sobre au début, mais t'as recommencé à boire ouais, pendant ton séjour là-bas.
Pendant mon contrat. Puis mes prestations, ça s'apparaissait. Le manager de l'hôtel, il appelait mon agent pour dire « There's something wrong with Eva. »
Parce que t'étais saoule pendant que tu chantais.
Oui, j'étais en consommation, puis je chantais. Ouais. C'était pas cute. Mais j'ai réussi à terminer le contrat. Après ça, je suis revenue au Canada pour quelques mois parce que j'avais des engagements à l'été. Je suis retournée au même hôtel. Encore une fois, début, c'était correct. Après ça, je l'ai échappé. Puis là, c'était pire que pire. Là. J'ai été congédiée de mon contrat.
Carrément?
Mm-hmm. Ouais.
Puis t'avais eu des avertissements.
Ouais.
T'avais-tu... En toi, est-ce que tu t'étais dit, là, il faut que je me reprenne en main parce que je vais perdre ma job ou ça...
J'étais pas capable. J'étais trop enfouie.
Mm.
Puis j'ai passé 4 jours dans l'aile psychiatrique de l'hôpital de Hong Kong.
Pourquoi l'aile psychiatrique?
Parce que quand je suis arrivée, j'étais en psychose. Puis je délirais.
C'est quoi les symptômes d'une psychose? Okay, tu délirais.
T'hallucinais, toi? Ouais, pas que j'hallucinais, mais j'ai aucun souvenir, mais... Ouais. La fille qui était avec moi, c'est ma meilleure amie aujourd'hui, puis c'était elle qui m'avait bookée à la gig, puis elle était venue me chercher, j'étais toute seule dans une chambre d'hôtel, puis dans mon délire, j'ai dit, là, je pense que je vais mourir, il faut que tu m'amènes à l'hôpital. Puis, OK, elle est venue me chercher, elle m'a amenée à l'hôpital. Puis quand ils m'ont entrée, j'étais dans tous mes états, je criais, je pleurais, puis quand ils posent des questions routinières, là, avez-vous des idées suicidaires, ça a l'air que j'ai dit oui.
Mmh, alors c'est sûr que ça. Tu t'en vas dire qu'elle est psychiatrique.
Mais j'étais attachée au lit pendant 4 jours.
Pour que tu puisses pas te faire de
mal. Je pouvais pas aller au petit coin. Il fallait qu'elle m'amène un pot. Là.
Aïe, aïe.
Puis j'ai pas été capable de dormir. Ils m'ont donné du diazépam. Pour premièrement, il fallait que je sois sevrée médicalement. Il fallait qu'ils nettoient mon sang. J'étais pluguée avec de l'intraveineuse. Puis il fallait qu'ils me donnent du lorazépam et du diazépam pour les symptômes du sevrage, pour pas que je convulse. Puis pour pas que je...
C'est quoi que ça fait? Ça pallie à ton sevrage, dans le fond? Ou...
C'est un calmant. C'est comme du lativant, du Valium. Ça,
OK, je comprends.
Ça adoucit les symptômes de withdrawal. Sinon, tu transpires, tu vomis, tu peux convulser. Oui, oui. Moi, c'est drôle parce que en état d'ébriété, toute ma vie, j'ai jamais été malade. C'est quand j'étais en sevrage que j'étais malade.
Ah oh, ouais.
T'as
jamais vomi de boisson?
Non. Non, j'avais une grande tolérance rapidement.
Pourtant, t'es toute petite quand même.
Oui, ma tolérance au niveau de la quantité, oui, au départ, deux verres, puis j'étais chaude. Oui, oui.
Ouais.
Vers la fin, ça me prenait 2 bouteilles au complet, plus. Là. Fait que plusieurs bas-fonds, plusieurs wake-up calls. Puis quand je suis revenue de Hong Kong, j'ai quand même fait quelques mois sans alcool. J'ai fait un ménage dans ma vie. J'ai quitté ma relation de Toronto qui était devenue très, très malsaine, très toxique. Parce que moi, dans la vie, je fuis. Quand je suis pas bien, au lieu d'avoir une conversation difficile puis de dire les vraies affaires, je refoule et je mets ma tête dans le sable puis je fuis, puis je sabote. Puis...
Tu as de la fatigue vocale.
Puis j'ai de la fatigue vocale parce que c'est un des symptômes de quand j'ai des émotions refoulées, parce que le corps nous parle, on en parle un peu tantôt,
ouais,
que ce soit du reflux gastrique, des tensions, des extinctions de voix. Moi, ma tension musculaire, c'est dans mon chakra de ma gorge. J'ai la gorge qui se resserre, puis ça l'affecte les muscles de mon larynx. Puis...
Ça te force à être à l'écoute de ton corps. Tu n'avais pas ça dans ta jeune vingtaine, ton corps ne te parlait pas comme ça.
Non, pas du tout. Vraiment pas. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu plein de wake-up calls.
Ça a été quoi l'ultime?
Le dernier wake-up call, c'était quand j'étais revenue au Québec en 2015. C'est ça, j'avais fait un 180 sur ma vie. J'avais quitté Toronto, j'avais quitté Hong Kong. Là, je me sentais vraiment petite dans mes shorts. Là, je me sentais comme un petit tas de poubelle parce que je m'étais fait congédier. J'ai remis... Ris pas de moi. J'étais je m'étais fait congédier, je m'étais mis du monde à dos. Ouais. Non, je m'étais mis du monde à dos aussi, même au Québec, là, j'ai brûlé des ponts, là, j'étais bookée sur des gigs, puis à un moment donné, j'étais comme « no show ».
C'est sûr, tu devais plus être fiable.
Ah, j'étais plus fiable, pantoute. Il y a des producteurs qui ont dit « elle est pas sérieuse, ah, c'est « I don't know what's wrong with her », comme « she's all over the place », elle répond pas au courriel. J'étais très flaky, là. Fait qu'en venant, je me suis rebâtie. En plus, j'ai failli déclarer banqueroute. J'avais comme tout perdu. J'avais pas d'entrée d'argent pendant tellement longtemps.
Ah ouais.
J'ai comme vraiment failli déclarer banqueroute.
Puis t'as pas fait faillite, finalement?
Non. Ben, ça arrêtait avec ma compagnie parce que moi, je suis incorporée depuis Canadian Idol.
Mm-hmm.
Puis j'ai trouvé un très, 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 très bon comptable au Québec avec qui je suis encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, qui m'a vraiment démerdée.
Wow.
Puis en qui j'ai vraiment confiance. Fait qu'on a mis on a fait du ménage dans tout ça. Moi, je dis souvent que j'ai des anges gardiens dans ma vie qui me sauvent parce que il y a tellement... Je me suis tellement infligée du mal. Puis aussi, je me suis mise dans des situations où j'aurais vraiment pu tout perdre, puis des situations de danger. Moi, je pense que je suis protégée par une force, une énergie quelconque parce que je suis comme étonnée que je sois ici aujourd'hui.
Ah ouais, hein, quand même. Est-ce que tu avais à ce moment-là des gens dans ton entourage qui étaient inquiets pour toi? Est-ce qu'il y avait du monde qui disait, tu dis que ta famille est proche, ils ont fait la file d'attente quand même pour toi chez Canadian Idol? J'imagine qu'ils te voyaient aller.
Oui, ben, au départ, on le cache bien. C'est comme tu l'as dit tantôt, le mot sournois, c'est vraiment ça. C'est une maladie qui est très progressive. Au départ, tu le caches bien, tout va bien. Puis là, tranquillement, pas vite, la maladie s'empare de toi. Moi, j'étais en train de m'effacer. À un moment donné, je pesais genre 105 livres. Je perdais mes cheveux.
Ah ouais? C'est parce que tu mangeais plus?
Je mangeais plus assez, non. J'avais la peau grise. Mm-hmm. Je fumais aussi.
Mm-hmm.
J'étais juste tellement... Je dormais pas. J'étais pas en santé du tout. Puis
faisais-tu le party? Ça allait-tu avec?
C'était les deux.
Ouais.
Vers la fin, c'était plus le party. Vers la fin, c'était... Okay. J'étais isolée. Je m'enfermais. Je me cachais.
Puis tu buvais chez vous?
Ouais. Ouais. À Montréal, je me louais une chambre d'hôtel crade pour aller m'enfermer pendant des jours et juste rien faire. Là.
Puis boire. Mais tu pleurais, t'étais en dépression.
Oui, vraiment.
OK.
Puis il y a des troubles alimentaires aussi là-dedans, fait que je me faisais des orgies de bouffe.
Puis tu te faisais pas vomir.
Oui.
T'as été boulimique?
Oui.
Ah, je savais pas.
Ah oui, j'ai plein de problèmes. Je suis toute brisée!
Premièrement, merci d'en parler avec autant d'ouverture, parce que je pense qu'entendre ton témoignage, on penserait pas ça de toi. Puis ça peut permettre aussi aux gens de... Tout le monde a ses bibites.
Oui, c'est ça. C'est que I'm not that special. Non, je suis pas spéciale. Tout le monde a des bibites. Tout le monde a des démons. Tout le monde a des bêtes noires. Tout le monde a des traumas. Tout le monde a des blessures. On a chacun notre filtre, nos paires de lunettes uniques avec laquelle on voit la vie puis avec laquelle on vit nos expériences. Je trouve que ça nous appartient à nous de s'observer. Mm-hmm. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis
non,
je regarde pas les gens qui font pas de cheminement personnel, qui font pas de développement personnel, qui lisent pas du self-help. Des fois, je me parle, parce que je suis comme, Eva, c'est pas tout le monde qui fait un cheminement comme toi. C'est pas tout le monde qui nomme ses émotions,
mais
qui parle de... Moi, je m'observe, puis c'est pas tout le monde. Il y en a qui vivent leur vie, puis they do the best they can, tu sais, l'anglicisme. Ils font de leur mieux, puis c'est correct. Mais... J'essaie vraiment. Puis je pense que je serais pas dans ce cheminement-là aujourd'hui si je m'étais pas vraiment plantée plusieurs fois à ce point-là. Puis dans le fond, j'ai de la gratitude parce que je réalise que je suis vraiment privilégiée dans la vie. Puis je sais pas si... Je pense que je prenais beaucoup de choses pour acquis avant de trébucher puis de me planter autant.
Mais je comprends mieux pourquoi tantôt t'as dit... Je me suis posé souvent la question dans ma vie... qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais pas eu Canadian Idol? Puis maintenant que tout ce que tu viens de m'expliquer, je comprends le questionnement que tu as. Parce que dans le fond, c'est comme si ça a été l'élément déclencheur de tous les déboires qui ont suivi.
Mm-hmm.
C'est pour ça que tu t'es posé la question?
Oui. Oui, parce que un de mes plus grands défauts, comme je disais tantôt, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à fuir. moi, on dirait qu'il faut que je me rende au bout des choses, même quand je vois déjà des red flags.
Mais c'est pas de la fuite, ça. C'est le contraire de la fuite. C'est tu t'accroches, non? C'est de l'entêtement, un peu, non?
Oui, non, t'as raison. Non, non, t'as bon point, dans le fond. Mais ce que je veux dire... Attends, je vais essayer de m'expliquer. Je suis tellement inconfortable dans l'affirmation de moi-même. Moi, je suis une people pleaser.
OK, ouais.
J'ai une peur bleue de déplaire.
Mm-hmm. Donc, t'es caméléon.
Ouais. J'ai tendance à être comme ça. J'ai tendance à faire ce qui est attendu de moi.
Ouais, ouais, OK.
Fait que, là, récemment, j'ai quitté le band avec qui j'ai été pendant 8 ans.
OK, Brit Floyd.
Brit Floyd. Ça, c'est la première fois, je pense, peut-être même de ma vie, mais que je fais quelque chose autant... qui est vraiment loin de ce qu'on attendait de moi.
C'est ça.
Parce que je déçois énormément de gens en faisant ça. Là. Ma peur de déplaire, je l'ai confrontée. C'est pour ça que je vis un grand inconfort ces temps-ci, parce que c'est tout frais, c'est une cassure qui est fraîche, puis c'est un deuil que j'ai à faire, puis blablabla. Mais
c'est, par rapport à ton tempérament, c'est une épreuve particulièrement intense.
Oui.
Parce que tu choisis de te respecter toi, puis pas être à l'écoute de ce qui était attendu de toi. Par ton public ou...
Ben, souvent, on a tendance à rester dans des situations qui sont, pour plein de raisons, confortables, sécurisantes, mais qui veut pas faire en sorte qu'on enfouit beaucoup de choses, puis il y a des choses qui cadrent pas avec nos valeurs, puis on n'ose pas se prononcer parce qu'on veut pas effaroucher personne, on veut pas déplaire, on veut pas se faire voir comme une diva. Moi, je pense j'ai jamais été diva, en tout cas j'espère. Il y a une époque où j'étais pas fiable et comme je viens de dire, mais je pense pas que je suis.
Ça partait pas de la nature diva, là.
Non, je pense pas.
Ouais.
Mais c'est vraiment. Je pense. Je me suis éloignée. Répète-moi ta question.
Je me suis. On est rendu ailleurs, mais il y a beaucoup de questions que j'ai par rapport à ce que tu as dit, mais j'aimerais ça remonter à.
Au bout des choses, tu me disais que c'était pas fuir, justement.
Ah oui, c'est vrai, okay, c'est ça. Oui.
Au bout des choses, dans le sens que moi, je vais être dans une situation, puis si je vois un red flag assez tôt dans mon petit chemin, au lieu de prendre une sortie, je vais faire comme, je vais continuer d'aller jusqu'au bout, d'un coup que ça aille mieux, d'un coup que ça s'améliore, d'un coup que c'est juste mes peurs, c'est juste mes blessures, c'est peut-être que c'est moi qui est paranoïaque. Fait que je vais continuer ma route. Au lieu de prendre la prochaine sortie que je sais qui est peut-être dans mon gut, dans mon intuition, c'est ça que je devrais faire. Je vais aller au bout des choses jusqu'à ce que je me pète la gueule bien comme il faut.
Mm-hmm.
Là, j'ai ma leçon.
Mm-hmm.
Puis
ça a été l'histoire de ta vie un peu, finalement, dans ta vingtaine.
Dans énorme... Ben, encore aujourd'hui, un peu.
Ouais.
Puis ça va être le travail de ma vie. Puis c'est bien correct, là, il n'y a personne de parfait.
Non. Puis on a tous nos défis par rapport à notre tempérament, nos blessures, comme tu parlais. Puis tu sais... Je trouve ça le fun parce que tu dis on peut pas s'attendre à ce que tout le monde fasse le cheminement qu'on fait. Moi aussi, je suis quelqu'un, tu sais, si j'étais consulter une psychologue avant de prendre ma décision pour Star Academy à 19 ans...
Ben, chapeau pour vrai.
Mais ça donne un peu... Tu sais, j'étais une personne de même, là. Tu sais, moi, le travail sur moi, ça m'a toujours fascinée. À 24 ans, j'ai étudié en psychothérapie parce que je m'étais dit... Ben, c'est pas perdu. Puis peut-être que je vais vouloir être thérapeute. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça que j'avais envie de faire dans la vie, mais... J'avais envie d'aller à la rencontre de moi-même. J'avais envie de me connaître profondément, puis ça a été la plus belle chose que je me suis offert comme cadeau, puis je souhaite à tout le monde de faire ce cadeau-là, parce que tu me disais que tu fais des fois des retraites, ou... Pour moi, c'est tellement important, ces moments-là, où... Parce que quand tu te connais, tu sais, dans Matrice, il est écrit « Connais-toi toi-même », le « Know thyself », tu sais, c'est vraiment la base de tout. Tu peux pas être un être de relation si tu te connais pas toi-même. Comment veux-tu te présenter dans le monde, être en relation, si tu sais pas c'est quoi les trucs qui vont te faire réagir, si tu connais pas tes blessures, si tu connais pas tes traumas que tu portes.
Oui.
Puis, tu sais, tu dis que c'est des clichés, la meilleure partie de soi-même. Pour moi, c'est peut-être cliché parce qu'on les entend à toutes les sauces, mais y a rien de plus vrai que, en tout cas, moi, ma recherche. Puis je me rappelle, une des premières fois que tu m'as parlé, c'était par rapport à l'authenticité. Tu sais que ça vibre très haut. Là.
Tu m'as dit que c'était la fréquence qui vibrait le plus fort.
Ouais, c'est ça.
Même plus que l'amour.
Il paraît, là, j'ai été vérifiée avec l'intelligence artificielle, puis il paraît que c'est quelque chose qui est beaucoup répété dans les cercles ésotériques, ou en tout cas de New Age. Je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais moi, ça m'a parlé parce que je me disais, pour moi, il n'y a rien de plus important que mon intégrité. Tu sais, quand j'ai dit non à Star Academy, c'était vous toucherez pas à mon intégrité. J'ai pas envie de me mettre sur la map avec un concours, mm-hmm. de porter des talons aiguilles, parce que, tu sais, c'est ça, le soir, là...
Ouais, ils nous disent comment t'habiller.
Ils disent comment t'habiller. Leur poupée, là. Exactement. Puis moi, avoir comme... c'était un gars, là, avec les cheveux dans le vent, là, tu sais, vraiment... tout juste, il n'y avait pas une robe, là. Puis là, il était comme... Il nous montrait comment qu'on allait s'habiller, puis là, comment qu'on allait marcher, puis... comment qu'on allait se faire les ongles, puis là, rongez plus vos ongles si vous rongez vos ongles, puis là, tu sais, tout, on se faisait tout dire comment qu'on allait exister pour les prochains mois, puis j'ai regardé ça, je me dis, mais il n'y a pas personne qui va me dire comment m'habiller, il n'y a pas personne qui va me dire si je me ronge les ongles, bon, je me ronge pas les ongles, mais, tu sais, je suis pas devenue Hello veut savoir par hasard, finalement, là, c'est parce que c'était important pour moi d'être intègre.
Fait que ton désir d'être intègre était plus grand que ton désir de percer dans le show business.
Mais c'est pour ça que finalement, j'ai pas percé, parce que honnêtement, je c'est pense que ça. C'est vraiment difficile de percer et de rester intègre. Si t'es une personne de valeur avec une morale assez intense comme je peux avoir, tu sais, je pense que j'ai un code moral assez fort. Mm-hmm. C'est pas un milieu moral, le milieu du show business. C'est pas un milieu où les gens ont des grandes valeurs, sont loyaux en amitié, sont...
Il y en a mais qui sont très, très rares.
Elles sont rares en titi. Ouais, c'est ça. Toi, ton expérience du showbiz, est-ce que t'as trouvé que c'était un milieu toxique?
Tantôt, je t'écoutais parler avec... tes expériences avec le producteur, puis les sextos et tout, puis on dirait que j'ai allumé sur quelque chose que j'ai jamais...
flashé avant.
Tout à fait. Probablement que c'était de la naïveté, de la grande naïveté, mais j'ai vraiment un flash, là. Il y a peut-être une couple de personnes avec qui j'ai travaillé, puis moi, j'étais comme, oh, tu sais, mes amis, puis on passe toute la journée ensemble. Moi, je trippais, là, j'écrivais des tunes, puis j'étais complètement sur mon petit nuage. Puis je me rappelle de peut-être un certain pouvoir, I guess. Moi, je travaille avec toi, grâce à moi, tu vas pouvoir avoir des hits, tu vas pouvoir être dans le top 10, tu vas pouvoir te décrocher des contrats. Grâce à moi, je vais être un véhicule pour te rapprocher de ton prochain disque d'or, whatever.
Ouais.
Probablement parce que je pense qu'à cette époque-là, j'étais tellement jeune et naïve que je voulais pas le voir, tu sais. Non, c'est juste des jokes, c'est juste...
Mais c'est ça. C'est
pas sérieux. Fait que probablement que c'est arrivé plus souvent que je le pensais.
Puis, y es-tu vraiment 4h moins 20?
Non.
On a oublié de changer l'heure. C'est ça, j'étais comme... Oh, dear!
C'est l'heure d'hiver!
OK, c'est ça. On a changé d'heure, mais j'ai oublié de changer mon heure-là. C'est impossible.
Ah non, c'est pas comme les iPhones qui changent
automatiquement. Non, elle n'est pas intelligente, cette heure-là. J'ai 10$ chez IKEA. mais OK, excusez, j'ai vraiment perdu. Mais c'est ça ce qui est intéressant, parce que je trouve que nos parcours se ressemblent. Tu sais, premièrement, je me suis souvent fait dire qu'on se ressemblait, ce que je trouve très un beau compliment.
Moi, j'allais te le dire. L'autre fois, en plus, je l'ai dit à mon papa, puis j'ai montré une vidéo de toi, puis il a dit « C'est vrai!
» Bon, c'est ton père l'a dit.
Oui, c'est un compliment, parce que t'es très belle.
Ouais, t'es très belle, Eva. Mais écoute, je trouve ça, cette naïveté qu'on a quand on arrive les filles, parce qu'on comprend pas comment les gars marchent. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que j'observe de plus en plus, parce que je me dis, bon, genre, on a une petite fille, elle va un jour être ado, elle n'est pas rendue là encore, mais tu sais, je regarde comment les petites filles s'habillent. Puis je me dis, il n'y a pas personne qui s'est assis pour leur expliquer. Quand tu as l'air d'une PUTE, je suis désolée, là, mais tu sais, parce que c'est de même que les jeunes, c'est tout des crop tops, c'est des mini-jupes, le bedon à l'air, on voit la brassière, ou bien ils sont habillés avec des vêtements ultra amples, on dirait qu'ils portent un parachute. Il n'y a comme pas de demi-mesure. Non, on n'est pas dans le juste milieu. Mais tu sais, les petites filles, là, ou dans mon temps, là, c'était Britney Spears, fait que là, il y a tout le G-string qui sortait en arrière.
Les jeans puis... super taille basse, oui, je détestais.
On ne peut même pas s'asseoir.
Non. Excuse, mais si je trouve pas ça beau, ça fait pas de fesses.
Oh, en plus, c'est ça. C'est vraiment pas une chance, on est revenu aux tailles hautes, mais tu sais, il n'y a pas personne qui nous disait « tu vas éveiller le désir des gars ».
Parce que c'est ça qui vend.
C'est ça, mais on est naïfs, nous, par rapport à ça, parce que dans notre tête, c'est pas de même qu'on marche, nous, les filles. On se trouve cute de même. T'sais, on pousse pas la réflexion plus loin. Fait que tu sais, quand tu travailles avec un producteur qui a 10, 15, 20, 30 ans de plus que toi, puis qui voit une jeune femme de 20 ans, c'est quand même très jolie, qui veut percer dans le milieu, qui a de l'air prête à tout, ben il va s'essayer. C'est une équation de 1 plus 1 égale 2. Puis tu sais, je regrette pas, je vais pas jamais dire à mes parents, vous auriez dû en faire plus. Ouais. Mes parents, ils étaient beaucoup genre, vas-y, Hello, on te fait confiance. C'était... Mais des fois, je me dis, c'est vraiment, je sais pas qu'ils auraient pu m'encadrer plus par rapport à ma carrière, là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais dans la vie en général, je me dis, j'aurais peut-être aimé qu'on m'explique un peu plus la vie. Mm. Tu sais, comme, j'ai l'impression que cette maudite naïveté-là, en même temps, je l'ai eue jusqu'à tard. Là. Je pense que j'ai perdu ma naïveté à 30 ans là, dans un événement traumatique que je te parlais avant, qui fait que j'ai quitté ma job où j'étais souvent tournée, là. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, c'est comme les claques d'en face. Tu sais, tu peux plus juste faire aveuglément confiance à tout le monde. C'est comme, ben non, hello, tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas honnête, loyal.
On s'attend souvent à ce que autres se comportent comme nous, on se comporterait. Puis c'est ça qui mène à des déceptions. Comme moi, je ferais ça, pourquoi cette personne se comporte comme ça? Puis ben, c'est, je pense que c'est la source de beaucoup de conflits.
Oui, exact. Mais c'est difficile de ben, je pense que c'est ça aussi, prendre la maturité. T'sais. C'est à un moment donné, se rendre compte que la vie est pas juste à travers mes lunettes, puis être capable de se mettre à la place de l'autre. Mm-hmm. Puis, mais tu sais, oui, ces producteurs qui font ça. Il y en a un qui l'a pas fait, puis j'en suis infiniment reconnaissante, puis je me dis, il y en a eu un.
Oui, parce qu'ils sont pas tous
pareils. Ouais, c'est ça. Il y avait de l'air vraiment là pour les bonnes raisons, tu sais. Oui. Mais le, bon, ça a pas marché, parce qu'il y a un milliard de facteurs qui fait que ça peut ne pas marcher. Mais ça, finalement, t'as pas eu... T'as quand même, tu sembles avoir été épargné par rapport à MeToo.
Oui.
Ce qui est quand même extraordinaire.
Oui. Je suis vraiment chanceuse. Ben, chanceuse.
Ben oui, parce qu'on est une maudite gang qui se sont reconnus dans ça.
Oui.
Tant mieux si t'as pas été touchée.
Puis pour ça, ben, je suis désolée que toi, ça t'ait touchée, puis que t'aies eu à vivre ça.
C'était un autre chemin que t'avais à vivre.
Oui, tout à fait. Puis on a toute notre... On a toute notre route tracée, puis des fois, on va prendre des détours, puis c'est bien correct. Dans le fond, c'est comme impossible de... I guess le mot que je cherche, c'est se méfier. C'est de vivre sa vie en se méfiant des autres. Est-ce qu'ils sont authentiques? Est-ce qu'ils sont intègres? Est-ce qu'ils veulent mon bien? Est-ce qu'ils veulent travailler avec moi pour les bonnes raisons? Moi, depuis que j'ai quitté Brit Flood, j'ai fait mon annonce il y a une semaine, là. J'ai reçu une couple de demandes, des messages, de propositions, puis c'est sûr que moi, je suis dans une phase où est-ce que je suis entre deux chapitres, je suis ouverte à tout.
Ouais.
Mais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est sûr que j'ai encore une grande naïveté. Moi, je pense que je vais toujours l'avoir, là. J'ai des tendances à être très, très naïve, mais pas comme quand j'avais 20 ans, là. Mm-hmm. Je pense que j'ai assez une tête sur les épaules pour... aussi, surtout, me connecter à mon intuition, parce qu'il y a trop de fois dans ma vie, puis j'espère que je vais l'apprendre un jour, cette leçon-là, mais il y a trop de fois dans ma vie où j'ai une forte intuition, je la sens dans mes tripes.
Puis tu l'écoutes pas.
Puis je l'écoute pas. Puis là, ça se ramasse dans ma gorge. Puis j'ai la tension vocale.
Mais c'est drôle, hein, parce que les femmes ont fait pas mal tout ça, j'ai l'impression. En tout cas, je veux pas généraliser, mais tu sais, ma mère aussi, c'est une femme très intuitive, ma sœur, hyper intuitive, puis... Il y a tous ces moments dans la vie où on n'écoute pas notre intuition. C'est pas tellement valorisé d'écouter l'intuition féminine. T'sais, c'est comme... C'est de la frime, ces affaires-là. Ou... Mais c'est arrivé assez souvent dans ma vie d'avoir un feeling de ne pas l'avoir écouté. Souvent, moi, c'est les accidents que j'ai vus venir puis que j'ai pas écouté. Ouais.
Ah ouais.
Quelques accidents que je vois que l'accident va arriver. Puis là, dans ma tête, je fais comme... Je le vois. Puis je me banalise de mon intuition. C'est plus une prémonition, rendu-là.
OK.
L'accident a lieu, puis là, je m'en veux.
Ça t'est arrivé plusieurs fois?
Ben là, j'ai trois fois en tête là, que je peux penser dans ma vie que j'ai vraiment vu l'accident, puis j'ai fait « Pourquoi j'ai pas parlé? » Ou « Pourquoi j'ai pas dit? » On aurait pu l'empêcher, tu sais.
Mm.
Puis la dernière fois que c'est arrivé, je me suis juré que j'allais plus jamais pas écouter mon intuition. C'est fort, l'intuition.
Parce qu'on dirait que c'est la tête qui veut prendre le dessus, qui dit « Non, c'est pas rationnel, c'est pas pragmatique. » C'est ça. Comme « On paper, tu sais ce que... » Encore une fois, ce que tu dois faire, ce qui est attendu de toi. Des fois, si tu es dans des situations où, mettons, tu as entrepris une démarche, puis si tu rebrouches chemin, puis tu choques ou tu mets les breaks, comme, mettons, un scénario quétaine de film, là, que c'est le mariage. Là. Tu te maries, puis tu es comme... C'est pas comme dans les films, là.
Non, t'sais? C'est ça, il y a la réalité. Puis ouais.
C'est vraiment... c'est fort, l'intuition. Puis je suis sûre que tout le monde l'a. C'est juste qu'il y a tellement de bruit là-dedans. Puis...
Ouais.
Autour de nous. C'est pour ça que, exemple, les retraites que j'ai fait, plan de match, c'est un 5 jours intensif où tu mets mute sur tout ça. tu peux pas mettre mute là-dedans, mais tu peux mettre mute sur l'extérieur.
Donc, pas de téléphone?
Pas de téléphone. Tu te retrouves
silence?
Seul. Y a un après-midi silence, mais c'est pas une retraite de silence. Il y a beaucoup de théories. C'est animé par un ami à moi, Simon Desjardins, qui est alcoolique en rétablissement. Lui, ce programme-là, il l'anime depuis 16-17 ans. C'est pas juste pour les gens qui ont des problèmes de consommation, c'est vraiment pour n'importe qui veut juste mieux se sentir, que ce soit une dépression, divorce, perte d'emploi, consommation, ou quelqu'un qui se sent juste comme perdu. C'est vraiment bénéfique parce que je reconnais que je suis vraiment, vraiment choyée de pouvoir faire ça. C'est pas tout le monde qui peut prendre off du travail pendant 5 ans ou, tu sais, laisser les enfants. 5 ans, wow!
5 ans, j'en connais pas, mais
oui! Retraite de 5 ans, bye!
Non, mais c'est vrai que les gens, souvent, ils ont 2-3 semaines de vacances par année. Là,
exactement. Fait que c'est vraiment, c'est un cadeau de pouvoir s'offrir ça.
Ouais.
Puis tu fais vraiment une grosse introspection. Il y a des ateliers d'écriture. mais faut que tu fasses confiance. Parce que si tu y vas sur le break, ça marchera pas. Tu n'auras pas les bénéfices. Fait que beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'honnêteté. Dans le fond, il faut que tu te regardes dans le miroir et tu fais comme « Pourquoi je suis comme ça? » Qu'est-ce qui marche pas dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je suis pas bien ou pas 100% bien? Puis là, tu regardes les blessures fondamentales, le rôle des parents quand tu étais petit. T'avais-tu des parents présents ou non? Puis c'est rough, là. Pour vrai, c'est pas une retraite, c'est pas un spa où tu te fais masser, puis tu journaling, puis c'est intense.
C'est quoi les bienfaits que t'en retires? Si tu le fais puis tu le refais, c'est parce que finalement, le rough fait du bien.
Vraiment. C'est douloureux. C'est nécessaire. Sur le coup, oui.
Ouais.
La première fois que je l'ai fait, c'est en 2016. C'était quand j'étais revenue d'Hong Kong, justement. J'étais toute fragile. J'étais comme un petit Bambi qui apprenait à marcher. Je suis rentrée là, toute comme... complètement, là, j'avais levé le drapeau blanc. Là. Je suis comme, je suis plus capable, je vais tout essayer. Puis c'était un ami musicien qui m'avait parlé de ce programme-là. J'avais adoré ça.
Tu voulais te sevrer de l'alcool?
J'étais déjà sevrée.
À cause de ton séjour à Hong Kong?
Oui.
Okay.
Il a fallu que je sois sevrée médicalement. Fait que j'ai fait le sevrage à l'hôpital. Après ça, je suis retournée au Canada.
Avec la résolution de ne plus retoucher à l'alcool? OK.
Oui. Puis j'ai fait le programme. Ça a été, c'est sûr que c'est pas une formule magique, là, ça guérit pas tout, mais ça a été le tremplin de mon rétablissement. Après ça, ben j'ai fait beaucoup de réunions AA. Je me suis connectée beaucoup à des groupes d'entraide. J'ai fait énormément de lectures. Je me suis pitchée dans tout ce qui était autobiographie de gens qui ont surmonté la dépendance. J'ai voulu vraiment m'éduquer sur l'alcool, le côté comme plus neuroscientifique de l'alcool, qu'est-ce que ça fait à notre cerveau, comment ça agit sur notre corps. J'ai lu un livre extraordinairement bon qui s'appelle « This Naked Mind » qui explique vraiment comme qu'est-ce que c'est l'alcool puis pourquoi...
T'avais besoin de l'intellectualiser.
J'avais besoin de comprendre. Mm-hmm. Je voulais comprendre ma maladie, genre « What's wrong with me? » OK, mais c'est pas de ma faute. J'assume les actions que j'ai commises quand j'étais pas bien. Mais le fait que je suis tombée dans cette dépendance-là, je me flagelle plus. Là. Je me suis flagellée longtemps, mais j'ai compris que j'étais juste malade.
Donc, c'est référé comme une maladie.
Oui.
Qui est la dépendance à l'alcool, finalement.
Oui. Okay. Ouais. Aux États-Unis, ils appellent AUD, là, Alcohol Use Disorder. Puis c'est un trouble, ça rentre dans les troubles mentaux. Puis moi, je voulais vraiment tout comprendre le plus possible. Puis j'en ai tellement beaucoup à apprendre aussi. Fait que j'ai vraiment, je me suis mis à m'éduquer puis à aller chercher tous les outils possibles. Je cherchais des lifelines, dans le fond. Puis j'étais abstinente pendant toute 2016. Puis en 2017, j'ai dit « Ah, tiens, je pense que je suis guérie. »
Ah, OK. T'étais-tu en train de traverser une passe difficile ou...
Non, ça allait super bien.
Tu disais « Je vais être capable de prendre juste un verre. »
Exact. C'est ça qui était dangereux. Puis ça faisait partie de mon parcours. La rechute est comme super... C'est hyper commun de rechuter rétablissement. Ouais. Puis encore aujourd'hui, j'ai pas de garantie que je rechuterai pas jamais.
Mais t'as rechuté en 2016.
Oui, okay. En 2017. Fait qu'au début 2017, j'avais fait un an, puis j'étais comme là, tu sais, ma vie va mieux, ma santé mentale est tellement plus forte, j'ai des outils, je prends soin de moi, tu sais, j'ai des contrats, je fais un ménage dans ma vie, blablabla. Fait que j'ai dit, je vais pouvoir me contrôler.
Tu pensais que tu étais à l'abri. En fait, c'est que tu comprenais pas finalement ta maladie.
J'avais encore une fois, je n'étais pas allée au bout encore. Je me suis rendue au bout.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Ben, la première soirée, ça a bien été. J'ai été capable de prendre, je pense, 2 verres de vin en souper, puis en soupant. C'était très... c'était vraiment comme réfléchi, là. C'était comme, je pense que je vais me permettre un verre.
Mm-hmm.
OK. Puis ça a bien été, j'ai arrêté à 2 verres, puis j'étais fière de moi, là. J'étais comme, yes, I did it, je suis guérie, je vais pouvoir boire socialement maintenant. Mm. Je me sentais comme superwoman. La semaine d'après, c'était la bouteille au complet.
Ah, okay. Vite de même?
Ah, oh, vite de même. Vite de même. Tu retournes exactement où t'étais.
Ah, wow.
Et je l'ai fait plusieurs fois parce que auparavant, avant de faire un an, j'avais fait des petits stretches, comme 30 ouais. jours, 2 semaines. Et à chaque fois que je retombais encore plus creux à chaque fois.
Plus creux?
Oui. Fait que...
Tu consommais encore plus.
Oui, rapidement. Ah, oui, oui. Ouais.
Ah, bah, OK.
C'est comme si ton corps ou ton psychique, ton cerveau, se souvient exactement où t'as laissé.
Mmh.
Fait que ça n'a pas pris de temps.
Puis tu reprends là où t'as laissé, puis tu continues de descendre.
Genre, oh, ouais. Wow. Sauf que cette fois-là, je me suis pas ramassée à l'hôpital parce que je me suis comme rattrapée.
OK.
Mais ouais, ça, j'ai été quelques semaines...
T'as dû être dure avec toi-même quand c'est arrivé, ça?
Oui. Oh mmh. mon Dieu, je me suis trahie. Mmh. Tout le monde va être déçu. Qu'est-ce que j'ai fait?
Mmh.
Mais je me souviens d'une soirée où je n'étais plus capable d'arrêter. Je cherchais tout ce qu'il y avait dans l'appart. Là. À l'époque, j'étais avec un copain qui était musicien. J'avais vidé son whisky qui coûtait comme...
En plus, c'est cher du whisky, du bon whisky.
Un Lafroig.
Ah, Lafroig.
C'était même pas bon, ça goûtait
c'est
la fumée.
C'est dégueulasse, ça goûte la fumée.
Mais c'est pas grave, c'était de l'alcool.
Attends, vidé le Lafroig.
C'est dégueulasse.
Pas bon.
Puis quand il revenait à la maison, je pleurais comme une folle. Puis j'étais comme, je suis officiellement alcoolique.
Pauvre petit chouette.
On dirait que là, j'avais compris. Et ce n'était même pas ma dernière rechute, parce qu'après ça, j'ai fait un autre 5-6 mois. Puis en 2017, j'ai eu un mois de rechute.
Ou là, pendant un mois, t'as bu. Là.
Après ça, c'était fini. C'était ma dernière fois. Fait que ma date de sobriété, c'est le 13 décembre.
Puis il a fallu que tu te sèvres cette fois-là par toi-même?
Oui, je me suis sèvrée par moi-même parce que j'avais pas consommé quotidiennement pendant des mois et des mois. C'était
un
mois où ça y allait fort, mais j'ai refusé de retourner là. Fait que je suis quand même fière.
Oui, oui, oui. Ben, comme tu dis, c'est un cheminement. Fait que, faut accepter le chemin. C'est pas... Mais la résolution d'arrêter de boire, tu l'as pris parce que tu t'inquiètes pour ta vie?
Oui.
C'est vraiment ça?
Oui, oui.
L'intérêt pour travailler sur toi était déjà là avant ou c'est venu dans ce processus-là?
C'est venu dans ce processus-là.
OK.
Non. Avant que je réalise que j'étais dépendante à l'alcool puis que j'avais un sérieux problème. Puis c'était pendant plusieurs années, c'était aussi un cercle vicieux de dépression. Plus t'es déprimé, tu bois. Puis l'alcool, c'est un dépresseur.
C'est ça.
Fait que ça arrête. C'était une roue sans fin. C'était comme j'ai souvent vu des comparaisons comme un carrousel. C'est un carrousel, puis, tu sais, c'est épeurant de te jump off, tu sais, parce que le momentum, t'es pogné là, sur le carrousel, t'es étourdi, mais tu veux débarquer. Puis là, tu débarques, puis tu vas te flyer loin, tu vas te planter, tu vas t'égratigner, tu vas te casser un bras, mais au moins, t'es parti du carrousel.
Ouais.
Fait que j'aime bien cette analogie-là. Mais c'est vraiment... je l'ai faite assez de fois pour me rendre compte comme... Colin, puis tu sais, c'est Albert Einstein qui dit le comble de la folie, c'est de faire la même chose over and over again.
Attendre un résultat.
C'était ça, j'étais rentrée, c'est ça. Je me dirigeais vers la folie, puis quand j'étais à Hong Kong, attachée au lit d'hôpital,
c'est incroyable que tu aies vécu ça.
C'est ça, la folie. En plus, j'étais incapable de dormir, j'étais tellement agitée que pendant 4 jours, j'ai pas fermé l'œil du tout.
Oh,
pourtant, j'étais bourrée de calmant puis de diazépam.
Tu n'arrivais pas à dormir.
Non. J'avais les yeux ouverts. Puis
donc, ça, tu te souviens de ça?
Oui,
tu te rappelles
pas
de ta psychose, mais tu te rappelles des 4 jours.
Je m'en souviens des 4 jours. Ouais.
Ça devait être long en titi, 4 jours.
C'était très long. C'était les pires 4 jours de ma vie.
Ah ouais, hein?
Ouais. Bon, ouais, j'avais pas de téléphone, j'avais rien.
T'avais-tu de la visite, ton amie, ta meilleure amie?
C'était la seule personne qui me visitait. Elle est venue me visiter une fois en 4 jours parce qu'elle chante. Elle chantait comme
plus,
tous les jours à temps plein, puis elle habitait pas proche. Fait qu'elle venait me voir autant que possible. Moi, je pouvais pas appeler mes parents.
Tes parents savaient pas à ce moment-là?
Oui, parce que. Ma mère, elle avait déjà vu que je m'étais mis dans ces états-là auparavant. Fait qu'elle appelait mon amie pour lui dire « Eva me répond pas, j'ai pas un bon feeling, tu peux-tu aller la chercher à l'hôtel? »
Elle avait été inquiète.
Elle était morte d'inquiétude. Mes parents, j'ai tellement, tellement inquiété de monde. J'ai tellement fait de peine à des gens proches de moi qui voulaient juste mon bien. Le pardon, c'est une des choses que moi, je suis quelqu'un qui pardonne rapidement les autres.
Mais pas toi.
Moi,
tu te pardonnes pas?
J'y arrive tranquillement.
Ouais.
Mais j'ai tellement j'ai tellement agi de façon qui, pour moi, était vraiment honteuse. Genre, c'était pas moi. J'ai infligé du mal à tellement de gens que, OK, oui, j'étais malade, oui, j'allais pas bien, mais c'est pas grave, le tort était fait quand même. Fait que ça va être... C'est un long processus de me pardonner, mais...
Ça fait son chemin. Maintenant, tu es mariée avec un Italien, tu habites en Italie. L'Italie, tu es connue pour avoir des bons vins. ton mari, comment il t'accompagne là-dedans?
Il boit pas.
Non?
Il aime juste pas ça.
Sérieux?
C'est très étonnant.
Il aime surtout pas que vous êtes en tournée 120 jours par année, là, je comprends que c'est fini, mais tu tournes énormément.
Ah, ben en tournée, le frigo du tour bus est tout le temps rempli. Là.
OK.
Fait que je me faisais souvent poser la question, les tentations sont-tu difficiles d'être entourée d'alcool? Pis tout... Moi, mes tentations sont... Mes triggers, là, sont ici.
C'est quand tu vis quelque chose de difficile, c'est pas de boire une bouteille. Là,
Parce que j'ai déjà été dans des situations où, tu sais, tu demandes à n'importe quel alcoolique, quand t'es assez désespéré qu'il faut que t'ailles boire du Listerine, c'est que tu vas trouver ton médicament d'une façon ou d'une autre.
Ouais.
Fait que d'avoir le frigo rempli d'alcool, puis qu'il y ait de l'alcool gratuit à tour de bras partout, c'était pas ça mon problème. Mon problème, c'était ce qui me concernait, puis ce qui me préoccupe le plus, c'est comment je me sens à l'intérieur. Je pense... J'ai lu récemment un livre de Jérémy Demé qui s'appelle « La vie
».
Puis il parle quand tu prends soin de ton intérieur.
« La vie », celui qui a écrit après.
Oui, le troisième, c'est vraiment bon. Quand tu prends soin de ton intérieur, ben, ton extérieur devrait suivre. C'est du travail, mais c'est pas mal ça. Pas mal ça. Mais moi, non, mon mari, il boit pas, il aime juste pas ça. Une fois de temps en temps, il va boire une Guinness parce qu'il aime le goût, mais là, c'est rendu... Oui, je sais, je parais comme toi. Même s'il y a de la 0-0, maintenant, il y a énormément d'options sans alcool. Ça, c'est quelque chose que je trouve très, très encourageant. C'est que en Amérique du Nord, un peu partout, il commence à avoir beaucoup, beaucoup plus de sensibilisation, plus d'éducation. Je pense que c'est en Irlande, je pourrais me tromper. Ils ont commencé à mettre des étiquettes, des warning labels sur les bouteilles d'alcool.
Ah ouais. Comme sur les paquets de cigarettes. Ah ouais, okay.
Ça, je trouve ça quand même bien. Ici, au Québec, je trouve que tu rentres à l'épicerie, il y a un paquet d'options sans alcool.
Mais c'est très... En tout cas, moi, je t'ai déjà dit quand j'ai eu des moments, j'ai pas bu d'alcool.
Ouais, je me souviens.
J'ai toujours été comme ma sœur aussi, là. Ma sœur, c'est vraiment, c'est très... Des longs moments qu'elle boit pas d'alcool, puis...
Tes motivations, c'est quoi?
Ben, moi, j'aime pas tant que ça. Premièrement, j'aime ça socialement boire un verre avec quelqu'un, mais c'est pas parce que j'ai envie de prendre de l'alcool, c'est juste parce que j'ai envie de boire un verre avec quelqu'un, tu sais.
Puis t'arrêtes à un verre, puis t'es correct.
Ouais, puis souvent, tu sais, j'aurais préféré pas prendre de l'alcool.
Je comprends.
Puis c'est pour ça que je me suis mis à m'acheter du gin. Ben, enceinte, je me suis fait donner du gin sans alcool. Ça goûte pas tout le gin, mais c'est pas grave, tu peux t'amuser à faire des cocktails, je rajoute, je sais pas, j'ai plein de fines herbes, puis tu t'amuses à mettre de la grenadine, whatever, mais je parle... Il y a moyen de faire des mocktails avec tout ce que tu as dans ton frigo. J'ai des sirops de gingembre que je me suis fait ou, tu sais, avec des fraises et poivres noirs, whatever. Tu peux t'amuser. L'affaire, souvent, c'est que ça goûte trop sucré, là. Mais, tu sais, mon point étant que...
C'est le rituel.
C'est le rituel de boire un verre avec des amis ou dans une soirée. Puis moi, l'alcool, premièrement, j'ai pas d'endurance. Je prends un verre, je suis déjà un peu paf. Puis je me suis rendu compte que ça me faisait...
Cheap date.
Très cheap date, oui. Mais je dors mal, mais mal quand j'ai bu. Puis la dernière fois, tu me parlais de ton whisky. Mon chum puis moi, on aime vraiment le bon whisky.
Oui.
Puis quand j'étais sur Ford d'avant, quand je travaillais sur la route, mon meilleur ami, qui est encore c'était mon meilleur ami de l'équipe, mais c'est encore un bon ami à ce jour, Martin, c'était mon scotch buddy. Fait que partout où on était, que ce soit justement, tu me parles du Lafroig, puis on avait bu à Phoenix, on avait été dans un bar, puis il y avait du Lafroig, je me rappelle, je trouvais ça
comme ça qu'on prononce ça?
Ben, lui, il prononce un petit anglo, parce que c'est Lafroig, ouais. Puis j'avais trouvé ça dégueulasse, mais
c'est pas bon.
On s'amusait à essayer plein de scotch, c'était notre fun, puis donc je me suis amusée à boire des bonnes bouteilles de scotch. Enceinte de mon deuxième, j'ai acheté, on avait fait un voyage au Mexique, puis en revenant, on était au Mexique, à Riviera Maya, à l'aéroport, il y avait une bouteille au duty-free, là, tu sais, que tu trouves nulle part ailleurs, qui coûte super cher, puis j'ai comme, je vais la garder pour quand je vais raccoucher. Après que mon fils soit né, je bois... on avait pris un verre, je pense. J'ai tellement mal dormi, là. Mal dormi. Là. Puis j'étais comme, mais plus jamais. Je peux plus boire de verre. C'est terminé. Mais j'ai encore la bouteille. Ça fait 3 ans. Puis je
veux pas la boire. La visite.
C'est ça, je l'offre à la visite. C'est chanceux, c'est une bouteille à 150$. Mais honnêtement, je me suis dit, ben, premièrement, j'ai vraiment pas apprécié. J'ai trouvé que c'était pas bon. C'est comme si être enceinte m'a fait plus aimer l'alcool. Déjà, j'ai fait 2 fois 9 mois sans boire. Puis c'était pas si dur que ça. Pendant 2020, là, t'sais, j'ai été enceinte de mon premier bébé. Je suis tombée enceinte en novembre 2019, avant que le monde change.
Mm-hmm.
Il y a eu le pendant que le monde change, puis j'ai accouché pendant le pic de la folie, tu sais. Fait qu'il y a eu comme trois étapes.
Fin 2020, genre?
Juillet 2020,
ouais. OK.
Fait que... Je me rappelle, j'avais trouvé ça dur des bouts parce qu'on avait tellement rien à faire. Mm-hmm. On était comme assis dans un condo de 800 pieds carrés, à pas pouvoir sortir, pas de terrain, juste un petit balcon. Des fois, je me disais, je prendrais un apéro. Là. C'est juste faute de faire de quoi de ma journée parce qu'on pouvait rien faire. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai perdu ma chaîne pendant ce temps-là parce qu'on avait tellement de temps.
Mm-hmm.
C'est une chose que je n'ai plus depuis. Mais c'est ça, c'est facile pour moi, ce que je, tout ça pour dire, mon Dieu, j'ai fait un grand détour pour dire, je trouve que c'est mal vu d'arrêter de boire.
Ça prend tellement de place dans notre société, l'alcool.
Puis les gens se sentent... Ma théorie, c'est que les gens sont confrontés à eux-mêmes. Tu sais, si tu dis, ah non, moi, ce soir, je ne vais pas boire. Mais voyons, tu vas bien prendre un verre. Non, c'est juste... juste un verre. Écoute, enceinte, là, je me suis fait forcer à prendre un verre de champagne par quelqu'un que je ne nommerai pas. Puis j'étais comme, non, mais oui, tu vois. Puis là, c'était comme insistant. Je sais, OK, à un point tel que je me suis pris une gorgée juste pour comme qu'on arrête de me gosser, là.
Mm-hmm.
Je me disais...
Ça vient avec une pression sociale.
Méga pression. Je me disais, qu'est-ce que ça change dans votre vie? Quand même que je ferais le toast avec du Perrier, pourquoi ça dérange, tu sais?
C'est parce que tu l'as bien dit, ça les confronte à eux-mêmes. Moi, souvent, quand je me mets à parler de ça avec quelqu'un, ils vont tourner ça vers eux. Ouais, moi, j'aime ça, prendre du vin une fois de temps en temps, mais tu sais, moi, j'ai pas de problème d'alcool, mais des fois, on fait des petits arrêts 28 jours.
C'est comme, oui, des petits arrêts de 28 jours.
C'est, quand tu te mets à devoir te justifier de même, c'est comme...
Au fond de toi, tu dois savoir que t'as une relation qui est pas si saine que ça avec l'alcool. Si tu te sens obligé de te justifier.
N'importe qui se demande, j'ai-tu un problème ou non, c'est la réponse est là.
Quelqu'un qui pense? Parce que toi, t'étais comme le typique alcoolique, qu'on se dit, t'es allé loin dans l'alcoolisme.
Rendu jusqu'au stade chronique, ouais.
Mais il y a plein de...
Ouais, c'est un spectre.
Plein de stades. Ouais, c'est un spectre.
Il y a plein de grades, de nuances grises. Il y en a qui arrêtent au tout début. Ah, c'est-tu quoi? Moi, je pense que ça me fait pas trop, l'alcool. Comme toi, moi, j'aurais aimé être celle qui dit... J'aime pas la trajectoire que ça prend, ma relation avec l'alcool. Je pense que je vais rectifier le tir maintenant avant que ça aille trop. Mais non, j'allais jusqu'au bout.
Ouais.
C'est correct. Ouais. Mais il y en a qui sont capables d'arrêter avec beaucoup de discernement, puis de jugement, puis encore une fois, s'observer, faire comme non. Bon, c'est pas pour être à mon plein potentiel, à ma meilleure santé, c'est pas quelque chose qui t'aide à avancer dans la vie, l'alcool.
Non, ça sert pas grand-chose.
Ça sert à rien. Même les experts de la santé, c'est le niveau, le montant d'alcool le plus sécuritaire, c'est pas un verre, quatre... Non, c'est zéro.
Mais c'est intéressant que je te rencontre aujourd'hui parce qu'il y a un livre que je lis depuis 2-3 mois, mais je lis vraiment pas beaucoup souvent. Fait que je le lis lentement. Ça s'appelle « Pourquoi nous dormons ». T'as-tu entendu parler de ce livre?
We Sleep?
Oui, Why We Sleep.
Je suis en train de lire.
Ah, c'est bien drôle!
T'es-tu sûr que c'est pas avec toi que je t'en avais parlé?
Je pense pas qu'on s'en est... Mais je t'ai peut-être dit d'aller écouter le podcast de Matthew Walker avec Joe Rogan, qui est un des meilleurs podcasts que j'ai écouté de ma vie.
Ben, je vais aller l'écouter parce que lui, je l'avais écouté sur un autre podcast puis je suis allée chercher son livre, mais je suis en train de lire aussi. C'est capoté, c'est super intéressant.
C'est vraiment passionnant. Puis hier, le bout que j'ai lu, c'était sur les femmes enceintes. Tu pognais, c'est le chapitre 5. En tout cas.
Pense pas... parce que je suis rendue à plus que la moitié.
Pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a tellement d'informations.
C'est
il y a quand même
trop
500
intéressant.
Pages, c'est très, très chargé d'informations. Fait, je pense pas, je ne vais pas tout retenir, mais ça m'a impacté parce que il était écrit que les études démontrent que, en fait, tout est par rapport au... Lui, c'est sur le sommeil, OK? Fait que tu as deux types de sommeil. Tu as le sommeil paradoxal, qu'on appelle REM, puis le NREM, qui est le premier sommeil où tu dors, tu rêves pas.
Mm-hmm. Le deep sleep.
Le deep sleep, oui. Puis le REM sleep, en anglais, le sommeil paradoxal, c'est là que tous tes neurones se connectent, puis tu replaces dans ta journée ce que tu as vécu. C'est pour ça que quand on dit « je vais dormir là-dessus le lendemain »,
ça fait comme un nettoyage.
Puis là, tu te réveilles le lendemain, puis oui, tu as la réponse, parce que tout s'est replacé pendant ton sommeil REM, Rapid Eye Movement. Puis le bébé dans le ventre de la maman, il y a les deux types de sommeil. Moi, je trouve ça vraiment fascinant de penser qu'il y a le REM, parce que ça veut dire qu'il rêve. Moi, ma question, c'est à quoi il rêve? Tu sais? Sur ma poisson chien, là. En tout cas. Mais c'est pas de ça que je veux parler. C'est que là, ça disait, 2 semaines avant que le bébé naisse, il tombe à faire énormément de REM parce que c'est là que là, toutes les neurones se connectent dans son cerveau. Le cerveau se développe énormément. Puis là, ils ont réalisé que les femmes qui ont bu pendant la grossesse, l'enfant, en fait, ça affecte son sommeil REM. Parce que c'est vrai que l'alcool affecte le sommeil.
Okay, oui.
Puis si l'enfant a manqué de sommeil, ben là, son cerveau se développe pas comme il faut. Mm-hmm. Puis donc, ça, il va jamais rattraper ce retard-là. Ils l'ont fait sur des rats, pas sur des humains, là, parce qu'ils n'ont pas empêché. Mais les rats, ils ont vu qu'il y avait un retard quand ils naissaient. Mm. Puis là, l'affaire qui m'a comme vraiment frustrée, je pense pas que je te l'ai dit hier pendant que je le disais, mais c'est les femmes qui allaitent. Nous, on se fait dire... Puis ça montre à quel point la société a banalisé l'alcool. Même maintenant, c'est ça, c'est rendu la norme, parce qu'il dit dans son livre, maintenant, sont rares les femmes qui boivent vraiment comme des alcooliques finis à 2 bouteilles par jour. Mais on se fait tout dire, un petit verre, c'est pas grave. Mm-hmm. Mais ça passe 100% la membrane du placenta. Puis ce que j'ai, mettons que t'as 0,08% d'alcool dans ton sang, l'enfant a le même dans son sang. Mais ton bébé, il fait 4 livres dans ton ventre, là.
Oh my God.
Fait qu'il y a le même dosage d'alcool. Fait que ça vient affecter directement son sommeil et son développement. Et c'est sûr que si tu bois pas souvent, c'est pas si grave que ça. Mais là, ce qu'il disait en plus, c'est que les femmes qui allaitent, on se fait dire que c'est une trace infiniment petite qui se retrouve dans notre lait. Mais ils ont démontré que les bébés qui sont allaités par une femme qui vient de boire un verre d'alcool vont avoir un moins bon sommeil après. Ils vont pas faire le sommeil REM, qui est le sommeil le plus important, le plus réparateur.
Oh my God!
Fait que là, j'ai fait... Moi, là, j'ai pas bu parce que je suis pas une grosse buveuse. Mais si j'avais su ça... Si, au contraire, puis je veux dire, j'ai une extraordinaire gynécologue, je l'aime beaucoup, mais c'est très libéral en ce moment. On est dans l'ère du temps où, mais regarde, si tu bois un verre d'alcool, ton enfant, il va pas avoir de syndrome.
Ben, on attend ça depuis toujours, là. Un petit verre, ça fait aucune différence.
Exactement. Fait que moi, je me suis permis ce petit verre-là parce que j'ai été... On m'a dit... Mes docteurs m'ont dit que c'était correct. C'est vraiment à cause de mes docteurs. Mm-hmm. Puis là, je réalise que j'ai allaité... Mais on s'entend que mes enfants n'ont pas... quand tu viens de voir, je suis pas quelqu'un qui boit une bouteille à moi tout seul, là. On a une bouteille qui est ouverte dans le frigo depuis 2-3 mois, je pense. Mais quand même, ça m'énerve à quel point on nous dit pas « Oui, l'alcool, un verre, c'est un verre de trop. Mm-hmm. » Puis oui, la SAQ, c'est intéressant, ta théorie qu'ils ne pouvaient pas la fermer parce qu'il y a trop de monde qui sont alcooliques, puis ça aurait probablement créé plus de
problèmes. Il n'y avait pas assez de place dans les maisons des intox, j'imagine.
Ça c'est fait peut-être ça.
Je pense. Mais je comprends que c'est ridicule.
Mais restez enfermés chez vous, allez vous acheter de l'alcool, allez vous acheter un joint, mm-hmm. puis écoutez les conférences de presse du premier ministre à tous les jours. C'est ça quand même, c'est ça qui se passe. Si on est... Puis écoutez, avant, il y avait les recettes pompettes avec le infamous...
Ben ça, tu vois, ça me triggerait cette émission-là.
Ben, au bout,
je comprenais que c'était drôle. Puis...
Mais t'étais encore à ce moment-là, tu consommais, ça fait quand même longtemps.
C'était en quelle année?
Ça doit être 2013, 2012. Je dirais que c'est avant ton...
Oh, jeez.
On n'était pas ensemble, fait que ça fait plus que 11 ans.
OK, ben j'étais en plein dans... Je le regardais pas parce que je regardais pas à télé dans ce temps-là. J'étais trop all over the place. mais je pense que... Oh, je sais pas, ça a duré quelques années parce que... Je me souviens de l'avoir regardé avec ma mère. Et puis, moi, ça me confrontait énormément. Oui, c'était drôle, mais je filais pas bien. J'aimais pas ça. Ouais, mais ça a l'air qu'il dilue, là, avec de l'eau.
Non, moi, je me disais, c'est pas de la face à la TV, comment ça c'est accepté?
C'est pas correct.
Ouais. Puis même chose avec tout le monde en parle.
Oui.
Tout le monde sort la bouteille de vin, puis vous allez boire avec nous. Hein,
moi, j'avais bu un verre de vin à tout le monde en
parle. T'es allée à tout le monde en parle?
Le lendemain de ma victoire de Canadian Idol. Hey, Seigneur, j'ai retrouvé l'extrait récemment chez mon père, puis j'ai regardé, puis c'était cringe.
2016. Ah,
tu vois, 2016, c'était ma première année d'abstinence. Okay. Fait que c'était tout frais, fait que j'étais super... Mais je le suis encore un peu, mais faut que je me... Des fois, faut que je me rectifie un peu parce que je peux pas tomber dans le « preach ».
Je pense pas que t'as le tempérament pour ça.
Je pense pas non plus, mais des fois, comme tu sais, en famille ou entre amis, là, je vais commencer à parler des méfaits de l'alcool, puis les dangers, puis je veux pas tomber dans le... vous savez que...
je suis vertueuse, puis vous
non,
êtes
non, non,
dans
non,
sur
non,
le
non.
faux chemin.
Je suis la dernière qui a le droit de juger les gens, pardon, qui prennent un verre ou plus. Mais c'est que... I know too much. Je connais tellement... de choses, puis je sais où que ça peut mener, fait que si je peux... en fait, je pense que je le fais déjà juste en parlant de mon parcours, puis moi, je me souviens que quand j'étais désespérée à arrêter, ben je lisais des livres, puis j'entendais des témoignages de gens qui avaient arrêté de boire, puis ça m'inspirait, puis j'étais comme, mais moi aussi, je pense que je vais être capable, puis veux pas, ça donne espoir. Mm-hmm. Mais oui, je trouve que ça prend beaucoup de place, mm-hmm. à risque d'être une casseuse de party, je trouve que ça prend trop de place.
Ouais.
C'est très culturel, autant, oui, en Italie, mais en Italie, moi, j'ai d'autres passions, là. J'ai la pizza, les pâtes, le gelato.
Oui, c'est des belles passions, quand même.
Mais oui, c'est... Puis, mais au Québec aussi, tu sais, c'est... on trinque, on célèbre, c'est associé à tout, à pas mal toutes les émotions.
Je trouve que c'est vraiment très intégré au Québec. Je pense vraiment pas que les gens réalisent à quel point c'est rendu trop, en fait. Moi, je pense qu'on a une relation un peu bizarre avec l'alcool, puis je trouve ça bien qu'on en parle, parce que c'est encore quelque chose dont on ne parle pas assez. Tu sais, moi, j'ai pas une opinion.
Il y a un peu de progrès, mais...
Il y a du progrès, tout à fait. Puis, tu sais, déjà, le fait que c'est pas le premier podcast que tu fais ou que t'en parles, tu sais, puis t'es une voix quand même importante. Je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui disent « Moi, j'ai choisi de pas boire d'alcool. » Mais il y a encore vraiment d'éducation à faire, parce que je pense pas que les gens réalisent. Tu sais, comme là, ce que j'ai appris avec Why We Sleep hier, ben comment ça, tu sais, je viens d'allaiter mes deux enfants, puis on m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Tu sais, si ton enfant, après, il fait pas une bonne nuit... Parce que tu l'as allaité puis tu venais de boire. J'ai tellement eu de la misère avec mon deuxième à le faire faire ses nuits. Tu sais, j'aurais mis toutes les chances de mon bord qu'il fasse une meilleure nuit. Tu sais.
Fait que pour toi, ça n'aurait pas été un problème de le prendre ou de le laisser parce que t'es pas.
J'aime pas ça tant que ça. Non, c'est ça. Fait que tu sais, ça aurait vraiment pas été un problème. Fait que tu sais, c'est juste, mon Dieu, c'est juste, donnez-nous l'information, puis après, on va... Mais le consentement, il n'est jamais vraiment libre et éclairé parce qu'il y a des modes, il y a des pressions. Puis là, tu sais, c'est comme, ben, ah, tu sais, la pression sociale de consommer. Fait que faites ce que vous voulez, les filles.
Ça fait bien trop d'argent, l'industrie de l'alcool. Là.
Ça doit être assez rentable. Je te remercie d'avoir partagé. Pour moi, c'est quand même incroyable que t'aies vécu ça, parce que c'est tellement pas ça que tu dégages. J'aurais jamais... Tu m'aurais dit, tu sais, mettons tu l'aurais pas dit, j'aurais jamais pu deviner ça de ton parcours. Puis c'est ça qui est important, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, ça peut être ta mère, ça peut être ta meilleure amie, puis ça veut pas dire que c'est vécu comme le film qu'on entend avec un néon, genre alcoolique, avec une flèche qui est pointée. Mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui t'écoute puis qui est en train de dire « je pense que j'ai un problème » ?
Si tu te poses la question, c'est le temps de faire un move.
C'est quoi le move?
Moi, je proposerais un arrêt minimum 90 jours.
OK.
Parce que 30 jours, c'est pas assez long pour en soutirer les bénéfices, je pense. Mais en tout cas, moi, je suis pas intervenante en toxico, mais... Il y a plein... On est vraiment choyés, là. Vraiment très choyés. On a plein de ressources à notre disposition. On a plein d'outils, il y a des programmes. Oui, il existe les Alcooliques Anonymes, il existe des plateformes comme Sober Lab, des retraites comme Plan de Match. Mon Dieu, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. C'est sûr que Alcooliques Anonymes, c'est hyper accessible, c'est gratuit. Il y en a partout. Tu fais une recherche sur Google, puis tu vas trouver un million de réunions ouvertes et gratuites.
Il n'y a pas de Dieu au centre de ça?
Oui, mais...
Il y a du monde que ça pourrait rebuter, non?
Oui, et j'ai eu énormément de feedback de gens, même aux États-Unis, c'est comme « Ah, mais c'est religieux, ça me parle pas trop. » C'est pas obligé de l'être si toi, tu le conçois pas comme ça. Même qu'ils ont modifié la liste des 12 étapes, nous avons confié à Dieu tel que nous le concevons, c'est-à-dire...
Okay. Ils ont changé un peu.
Moi, mon Dieu, c'est l'univers, c'est les énergies de l'univers. Il y a des gens pour qui c'est un être cher qui ont perdu, il y en a que c'est la nature, il y en a que c'est eux-mêmes. Peu importe, accroche-toi à quelque chose.
Ouais, ouais.
Parce que,
idéalement, quelque chose de plus grand que toi.
Oui, parce que clairement, si tu t'es rendu au point où tu n'as pas été capable d'arrêter par toi-même, c'est que tu dois te tourner vers quelque chose d'autre.
Oui.
Comme forcément, là. Fait qu'il y a plein de réunions partout. C'est super facile à trouver. Les gens sont accueillants.
Il y a une belle communauté.
Oui, absolument. Puis ça se magazine des meetings parce que moi, les premiers que j'ai faits, j'étais pas certaine. Mais après ça, j'en ai fait à Toronto, j'en ai fait à Gatineau, j'en ai fait à Montréal, j'en ai fait en ligne. C'est sûr qu'en ligne, c'est pas pareil. Là. J'ai trouvé un groupe aussi à Pise, proche d'où j'habite. Fait que ça, c'est le fun. Une chance que je parle la langue. Et puis, écoute, c'est un endroit où tu te fais pas juger. Tout le monde a le même questionnement que toi puis le même désir que toi, c'est-à-dire arrêter de boire puis de se libérer, en fait, de ça, de ces chaînes-là.
Puis de le maintenir.
Puis de le maintenir. Mais la première étape, c'est de dire... de lever la main puis dire comme « je pense que je veux de l'aide », c'est comme une des choses les plus difficiles à dire.
Dirais-tu que l'aide est nécessaire?
Moi, pour moi, ça l'a été parce que j'ai essayé trop de fois par moi-même. Je vais me contrôler, je vais modérer. À un moment donné,
ça prenait autre chose.
C'était pas assez. Fait que c'est pas obligé d'être les AA, ça peut être un autre programme. Ou... Écoute, il y en a qui ont arrêté par eux-mêmes, mais sans aucun outil, aucune ressource extérieure. C'est, je pense, des gens que je connais, c'est assez rare, mais ça se fait.
Mm-hmm.
C'est juste que...
Tout est possible, en fait, c'est ça, chacun son cheminement.
Les outils puis les ressources, moi, je vois ça un peu comme des façons de s'enraciner puis de se grounder.
Mm.
Plus je m'enracine, plus je suis solide, fait que quand il arrivera les tempêtes puis les orages de la vie, ben je vais être bien enracinée.
Mm-hmm.
Mais mes racines, faut que je les prépare à l'avance. Faut que je les nourrisse. Parce que le jour où ça va tout... Comme là, en ce moment, j'ai plein de confusion. C'est ça, j'allais dire,
en ce moment, t'es contente d'être enracinée, j'imagine.
Très, 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 parce que... J'y pense même pas. Ça m'effleure même pas l'esprit de prendre un verre. Mes neurotransmetteurs, ils sont trop... les chemins que j'ai débroussaillés sont trop... C'est plus un réflexe.
Ça va plus là, naturellement.
Non,
c'est plus ton option.
Non, mais je suis pas à l'abri de ça, fait que je vais pas arrêter de continuer de m'outiller et de travailler sur mon rétablissement.
Pas te dire, je recommence à prendre un verre une fois de temps en temps.
Non, ben non. Là, j'en sais trop. J'ai compris. J'ai vraiment compris. C'est mm-hmm. juste pas pour moi. Puis ça fait plus partie de ma vie. Puis c'est plus qui je suis.
Mm-hmm. Mm-hmm. Félicitations pour ton chemin. Merci d'être venu nous partager.
Merci, Hélène.